I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast
Les rois du monde Stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la Saint-Symphonie, au Requiem, j'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans respect, ni foi, ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi.
Mais qui est la voix derrière ce jingle si bien joué?
Eh bien, c'est tout le mystère de ce début d'émission. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis autour de cette table pour parler d'un spectacle pas vraiment comme les autres. On va vous en parler pendant une petite heure. Mais avant ça, autour de cette table, il y a Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour Julien.
Est-ce que ça va?
Super.
Parfait, il y a Amélie. Bonjour Amélie.
Bonjour Julien, comment ça va?
Très bien, et toi?
J'ai anticipé ta question.
Et nous avons donc deux invités qui vont nous parler d'une tournée, les comédies musicales, une tournée de réunion, une tournée de revival, de plein de spectacles dont on a parlé en bonne partie dans ce podcast. Et avec nous, il y a donc quelqu'un qu'on a déjà eu dans ce podcast pour parler d'un autre spectacle, c'était Résiste. Bonjour Gwendal-Marie.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, et toi?
Ouais, bah nickel, très heureux de revenir.
Merci
de
revenir.
Heureux de t'avoir à nouveau.
C'est gentil.
Et puis, nous avons quelqu'un qui, sur notre fiche, est indiqué comme le boss final de notre podcast, parce qu'on en a parlé dans un nombre incalculable d'épisodes.
Il faut voir que peut-être dès le premier épisode, on s'était dit, non vraiment, faudrait qu'on puisse t'interviewer.
Exactement.
Donc, pour le dire comme on l'a dit, Merwan Rim, si tu nous écoutes, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation, ouais, je suis ravi. On m'avait parlé de vous.
Ah, voilà.
Une amie en commun, je crois, voilà. Qui m'avait parlé de vous, Célia voisin, voilà, que je t'embrasse, j'en profite.
Célia, si tu
et
me regardes.
Qui m'avait parlé de vous en me disant beaucoup de bien de vous, donc je suis content de vous rencontrer, voilà.
Eh ben, on est ravis.
On est content également.
De vous recevoir tous les deux dans cette émission pour parler de la tournée Les Comédies Musicales. Alors on commence toujours par un tour de table de ce qu'on connaît du spectacle. Alors là on va faire un tour de table inversé. Qu'est-ce que vous connaissez du podcast? Est-ce que c'est une question générale du podcast dans la vie ou c'est de ce podcast-là?
Bah non, de ce podcast. Que vous connaissiez des Rois du Monde et Stone, je cherche... Non, je vais arrêter. Mais qu'est-ce que vous connaissiez alors?
Ah, moi je connaissais parce que du coup j'ai participé. Donc non, je sais que vous faites des... C'est un peu le masque et la plume, tu vois. De la comédie musicale.
Oh, wow.
Donc on est sur une review de spectacle avec des analyses et ça m'est arrivé d'en écouter quelques-unes et je trouve ça cool. Non mais c'est cool de voir une analyse aussi parce que souvent nous on voit des gens et ça nous fait trop plaisir à la sortie des salles de concert, mais on n'a pas le temps de partir sur des gros débriefs. Et parfois, ça fait quand même vraiment plaisir de voir à quel point, comment le spectacle ou ce qu'on a essayé de faire en création est perçu par les gens. Donc, c'est cool aussi de voir parfois des débats d'idées aussi. Voilà, on sauve pas des vies, hein, mais c'est cool.
On essaye. Quoique un peu, hein, des fois. Moi, je trouve qu'il y a certains moments qui sont bouleversants dans des spectacles et ça
nous fait plaisir de les entendre. Voilà.
Et merci pour. Je pense que là, tu viens de trouver le nouveau slogan de notre podcast. Hein, c'est le masque et la plume des comédies musicales. Je veux le garder. Hein, enfin, vraiment, je sais.
Même question, Merwan, ouais. Mais tu as déjà en partie répondu.
Je ne connaissais pas. Je découvre et je vais plonger dedans.
Voilà. Alors, je vous pose la question à vous, puisqu'on continue le tour de table.
Qu'est-ce que vous connaissez du podcast?
Qu'est-ce que vous connaissiez de la tournée des comédies musicales?
On la connaît de nom, mais on l'a pas encore vue. Enfin, en tout cas, moi,
ça,
et
quand
Amélie,
même, c'est quand même la honte.
C'est un peu la honte.
C'est carrément la honte.
Erreur, madame.
Mais justement, vendez-le nous.
C'est ça, c'était dans le but de vous dire, vendez-nous le spectacle.
Après des charges, c'est vrai que nos deux dates parisiennes ont été complètes très très vite.
Mais il y a un peu de ça aussi.
Et on a une émissaire qui a pu le voir, puisqu'elle était à Lyon au moment où vous passiez, c'est Ambre, qui a validé le spectacle. Elle nous a dit, c'est super bien. On salue Ambre.
Salut Ambre, merci beaucoup.
Et du coup,
d'être venue en éclaireuse.
Et il y a mes parents aussi qui l'ont vu à Béziers et qui ont adoré. Voilà,
trop bien.
Pour la...
Il faut aller à Lyon ou à Béziers, c'est pas tous les jours non plus.
Mais non, parce qu'il y a une date à Paris le 15 mars 2024 au Palais des Sports.
Et nous y serons cette fois-ci.
Mm-hmm. Et surtout, c'est une grosse date, on va en parler parce que c'est une date qui est un petit peu plus.
Date anniversaire, ouais, très spéciale.
Il y a des invités spéciaux.
Ah oui.
Avant de parler de cette date-là en particulier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce spectacle pour nous qui ne l'avons pas vu, nous pauvres inconscients qui n'avons pas encore vu le spectacle? Qu'est-ce que c'est que la tournée des comédies musicales?
Gwendal va très bien faire ça.
Ah ouais? Ok, j'y vais. Bon, comme Merwan s'est attaqué au titre, je m'attaque au spectacle. Non mais pourquoi c'est l'enfer que vous l'ayez pas eu vous? C'est parce que c'est votre plus gros kiff en fait. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver là, vous allez pas vouloir partir. C'est pour ça que j'ai trop hâte.
En avance, c'est intense.
Mais oui, parce qu'en fait c'est en fait une idée qui est partie de la période Covid, quand on s'est retrouvé en tant que artiste pas essentiel, et qu'on s'était dit tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de se réunir pour créer un rendez-vous avec les gens, les retrouver ailleurs qu'au Palais des Sports? Alors c'était un pari assez ambitieux. Parce que ça n'existait pas et qu'on savait pas si justement les gens allaient nous suivre en dehors des gros shows qu'on avait fait sans qu'il y ait 40 danseurs, sans qu'il y ait 4000 places et à remplir. Et on a Alexandre Sorin qui nous a accompagnés là-dessus, notre producteur, qui a cru. Et nous, du coup, cette vraie envie d'enfin travailler ensemble, puisque alors pour certains... on a partagé justement des comédies musicales, mais ça n'existe pas des spectacles avec 8 rôles principaux.
Et on se connaissait sans se connaître.
Voilà, on se croisait en promo en fait.
Et on savait qui faisait quoi dans quel spectacle, mais rarement on s'est rencontrés en fait.
Exactement. Donc voilà, s'il y avait une envie commune, on a fait une petite tournée sauvée du Covid, vraiment rescapée, où voilà, on était sur PBO. Enfin, c'était vraiment juste pour tester si le public allait nous suivre. On a cette chance que vraiment on puisse vivre ces moments vraiment tous ensemble. Et du coup là, on est reparti en tournée au printemps dernier. On va terminer cette première tournée là en automne, où là du coup on a rajouté des musiciens, une scénographie, une mise en scène, des lumières, voilà, parce qu'on veut qu'il y ait de la qualité. Et donc du coup, en vérité, on voulait aussi que les gens retrouvent les titres qui nous ont fait connaître du grand public, et aussi du coup des kiffs en duo, trio, collégial, des comédies musicales internationales, tu vois, qu'on connaît tous. Et du coup, pourquoi c'est intense? C'est parce qu'au final, quand on fait les comptes, on en est à 50 titres.
Wow.
On les fait pas tout entières, hein. Y a des mash-ups, il y a des medleys et tout ça, mais donc c'est plus de 2 heures de show. Et c'est que des tubes, du coup.
2h15, 2h20, chaud, quoi.
Donc tout le monde connaît, c'est la soirée karaoké, c'est les chansons, c'est les plaisirs coupables, tout le monde
chansons
se sent
inavouable.
Libre. Chansons inavouables.
Quelles chansons inavouables, alors?
Mais il y en a plein.
Non, je vais pas vous faire spoiler le spectacle.
Non, mais alors par contre, moi, ça me fait penser à une question. Quelle est votre chanson de comédie musicale inavouable? Dans le spectacle ou non, mais juste, quelle est votre guilty pleasure, comme on dit?
Qui ne soit pas une chanson à vous.
Oui,
voilà. Bien sûr.
Moi, tout ce qui était, tu sais, It's Raining Men, tout ça, enfin, tu vois, les chanter premier degré, Gimme a Man. Bon, voilà, ça arrive pas tous les jours, tu vois. Ouais. Mais non, c'est cool. Mais même quand on chante premier degré, Aimer ou Les Rois du Monde, c'est quand même un guilty pleasure.
Clairement.
Parce que, est-ce qu'avant d'être des artistes de comédie musicale, vous êtes ou vous avez été tous les deux des fans de comédie musicale? Il faut avoir ça dans les tripes pour le jouer sur scène tous les soirs.
Je pense que Merwan était un passionné, puisqu'il a quand même essayé de passer à travers les portes du Palais des Congrès pour aller en voir. C'est qu'on doit être quand même vachement passionné.
Moi, je suis arrivé, je vais dire, vers la comédie musicale. On va dire anglophone en tout cas, bien après en fait, bien après avoir commencé à travailler dans ce milieu-là en fait. Ouais. Je vais pas dire que j'étais moyennement attiré, mais c'était pas voilà, je j'étais pas un grand connaisseur de toutes ces comédies musicales à part Les Misérables, Cats, Le Fantôme de l'Opéra, voilà les grands classiques comme ça que je connaissais. Le reste, j'étais incapable de qu'on me dise Book of Mormon, je sais pas de quoi on parle, qu'on me parle de plein de choses, quoi, de plein de spectacles qui se jouent. Chicago, on aurait dit, bon, voilà, ok, ça oui, je connaissais, mais il y avait un paquet de spectacles que je ne connaissais pas. Et donc, moi, je suis arrivé là-dedans parce que pour moi, Starmania existait déjà, que Notre-Dame de Paris était déjà lancé, que Eddie Commandement existait déjà aussi. Voilà par quoi moi je suis rentré en fait. C'est plutôt par ça en fait. Et j'ai assisté à. J'ai vu Starmania à Paris. J'ai vu Notre-Dame de Paris. Et puis je me suis dit. Ça sent très très bon ça en fait. Et c'est un truc pour moi en fait. C'est vraiment un truc pour moi. Et puis j'ai assisté à la toute première, au mois d'octobre 2000, au Palais des Sports d'Eddie Commandement. Donc j'étais dans la salle, je m'étais acheté ma place. Je suis venu seul. J'étais tout au fond, les dernières places tout au fond, j'avais le mur derrière moi. Puis je regarde le show et je me dis, ok, c'est mort, c'est ce que je veux faire de ma vie. Voilà. Mais je ne savais pas qu'au mois d'octobre 2001, un an après, jour pour jour, je serais sur cette scène-là à chanter avec toute la troupe.
C'est un beau full circle quand même, hein, ça.
Ouais, mais j'étais dans un truc où c'était cuit, quoi. C'était ça. C'était ma vie, ça allait être ma vie. C'était...
En un an,
et c'était cuit. J'allais
un
le faire.
Genre de coup de foudre.
Ah non, mais c'était terminé. C'est-à-dire que dans mon cerveau, il n'y avait pas une once de. Je sais pas, on va voir. Et tout. C'était, mais c'est fini, quoi. C'est ce que je vais faire de ma vie, quoi.
Et tu sentais à ce moment-là que. Parce que finalement, il n'y avait pas eu beaucoup de choses. Il y avait eu Starmania hyper marquant. Ouais. Il venait d'y avoir Notre-Dame. Il y avait
Roméo et Juliette qui venait de se jouer, qui venait de commencer à jouer. Ouais. Et Alibaba aussi, et puis le Lady Commandement qui jouait. Voilà, c'était vraiment les spectacles, gros spectacles, grosses comédies musicales qui existaient
ouais.
De cette époque-là, vraiment, où qui ne tapaient que dans des zéniths et des grandes salles, c'était pas du tout dans les petites salles. Hein. Et c'était vraiment ce moment-là ouais, où je me suis dit, je veux faire ça dans ma vie.
Et tu t'es dit, dans 20 ans, je ferai encore ça. Et... T'imaginais non. Qu'il pourrait y avoir cette explosion des comédies musicales après ?
Non, pas du tout, je sais absolument pas. Après, moi, je m'étais donné 2 ans. Je sais que c'était... Beaucoup me disaient, mais tu peux pas te dire 2 ans, machin. En 2 ans, t'en fais ton métier. Je sais. Non, moi, dans ma tête, c'était plié, rangé. C'était dans 2 ans, c'est mon job. Si c'est pas mon job dans 2 ans, je change de pays, je vais ailleurs, je vais à Londres ou je vais aux États-Unis, mais je vais faire autre chose. Mais en tout cas, je vais rester dans la musique. Et puis un
c'est
an
marrant
à...
que tu dises.
Et puis un an après,
tu donnes 2 ans pour faire la comédie musicale en France, mais que si ça marche pas, tu vas à Londres ou aux États-Unis.
Clairement, c'est autre chose.
En vrai, c'est très marrant.
Ah non, mais c'était genre, ça doit marcher pour moi dans les 2 ans en France. Si ça marche pas ici, je prends un ticket d'Eurostar, je vais à Londres, je fais tout ce que je peux pour y arriver. Si ça marche pas, je vais aux États-Unis.
Quand même.
Et j'aurais fait le tour. C'est-à-dire que si ça marche pas dans une de ces 3 villes-là, que ça soit Paris, Londres, ou New York,
après Strasbourg, mais c'est pas
à autre chose.
C'est moins sexy.
Mais j'étais vraiment dans cette optique-là. Et écoute, voilà,
c'est quand même
les planètes
sacrée...
étaient pas mal alignées, je crois.
Ouais, c'est une sacrée intuition, parce qu'en fait, je t'écoutais dire, j'étais pas trop dans les trucs classiques, et en même temps, c'était avant que tu commences à parler de Cats, etc., j'étais en train de réfléchir, mais les classiques des comédies musicales françaises, ah bah oui, bah ok, il y a les 10 commandements, il y a le Roi Soleil, y a... bon, c'est mieux après, et t'étais dedans, ouais, donc après, littéralement, mais...
Après, c'est bizarrement, ouais, moi j'ai du mal à appeler ça des comédies musicales.
Ah, alors quel est...
Alors ça, c'est un vrai débat qu'on a déjà beaucoup eu, donc ça m'intéresse.
J'ai jamais réussi à être d'accord avec ce terme. Pour moi, c'est des spectacles musicaux, en fait. Parce que c'est un truc franco-français, c'est une vraie exception culturelle, ce qui existe. Ça se fait pas dans le monde. Il y a aucun pays dans le monde où vous allez jouer dans des zéniths pendant 2 ans, quoi. Ça n'existe pas, il n'y a qu'en France que ça existe. Et puis surtout le format. Mmh. On parle de spectacles qui, avant de se jouer, existent en album.
Ouais.
Avec une chanson qui tourne en radio dans toutes les radios et qui passe et dont le clip passe à la télévision non-stop, ça n'existe pas à Londres, ça n'existe pas aux États-Unis. C'est-à-dire que si un spectacle est un énorme succès, on sort l'espèce de best-of, les 10 années qui viennent de passer avec une rétrospective des chanteurs qui ont joué dans Les Misérables, etc. Où on fait une captation DVD. Mais c'est rarissime. Et nous, c'est vraiment une exception culturelle. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à appeler ça des comédies musicales. Pour moi, les comédies musicales en France, Le Roi Lion, c'est une comédie musicale. C'est une vraie comédie musicale, tu vois.
C'est une importation de Broadway aussi.
Voilà, que ça soit, tu vois, la comédie musicale sur ABBA, que ça soit Grease. Pour moi, c'est vraiment des spectacles musicaux, des vraies comédies musicales. Alors que tu vois, ça, pour moi, c'est tellement français comme truc. Et même, je l'ai vécu en partant jouer ça au Japon, en Corée du Sud, en Chine. Mmh. En fait, quand on arrivait avec ces spectacles-là, qu'on jouait Les 10 Commandements ou Mozart Opéra Rock, on les chantait en français. Et puis les gens étaient hallucinés, genre, mais c'est, qu'est-ce que c'est que ce spectacle, quoi? Vous jouez dans une salle où il n'y a pas ce genre de choses d'habitude, et vous êtes 75 sur scène, avec des décors, des costumes, des musiciens, des machins, des trucs. Et en fait, oui, c'est, pour eux, c'est des comédies musicales, mais c'est, moi, pour moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était un spectacle musical, en fait.
C'est un peu le format opéra, ceci dit. Hein. C'est vrai que quand on va à l'opéra, les gars, ils chantent dans une langue qu'on ne comprend pas, même quand ils chantent en français par ailleurs, d'ailleurs, mais c'est... On mais y là, va pour ouais. voir.
Mais là, ce qui est hallucinant, c'est que c'est un truc. C'est street pop, quoi.
Ouais,
c'est voilà, street pop.
C'est de la musique pop, quoi. C'est vraiment de la musique pop. C'est vraiment de la musique pop. Et d'un coup, on se retrouve à chanter des chansons qu'on a fredonnées parce qu'on allumait la radio et qu'on était dans sa voiture, on entendait cette chanson. Et il y avait vraiment un travail de. Avant de faire venir 3500 personnes tous les soirs, on a un an pour faire découvrir le spectacle aux gens. Parce que faire venir 3500 personnes du mardi au dimanche pendant 4 mois dans un palais des sports, un palais des congrès, c'est une tannée. C'est-à-dire que c'est genre mission impossible. Tout le monde parie là-dessus en disant ça marchera pas, c'est impossible, vous n'y arriverez jamais. Faites 2-3 zéniths à la limite, mais jamais vous arriverez à remplir. Et tu vois, on a, mine de rien, ça s'est produit. Et ça a été, moi, ce que tu vois, on en parlait avec Gwendal et tous les copains. On a l'impression d'avoir connu l'âge d'or de la comédie musicale, du spectacle musical, moi j'ai envie de dire, tu vois, en France, quoi. C'était tellement un truc incroyable, improbable.
Ça a changé. Pardon, je fais une parenthèse là-dessus, mais. Aujourd'hui, sur les spectacles qui sortent là, finalement, il y a beaucoup moins ce modèle de « on sort l'album, on fait la promo ». Si on prend Molière qui va commencer au Palais des Sports dans quelques jours, il y a un EP qui est sorti, c'est tout. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Starmania, c'était pareil. Il n'y a pas eu d'album avant.
Alors, en fait, les radios jouent plus le jeu, si tu veux. Donc déjà, c'est un peu différent. C'est-à-dire que on est arrivé à un moment, enfin moi je suis pas, non c'est plus vous êtes arrivé à un moment où c'était nouveau, renouveau, plus personne parlait sur la comédie musicale, et là d'un coup les 10 commandements, Notre-Dame, Roméo et Juliette explosent tous les scores.
On vivait des trucs incompréhensibles.
Voilà, ouais. donc là c'est revenu.
Un million d'albums vendus, un million de DVD vendus, pardon, à quel moment, quoi.
Là du coup le marché s'est complètement adapté en fait à cette nouvelle offre.
Il n'y a plus de vente de disques, il n'y a plus de vente de DVD, ou très peu. Les gens écoutent la.
Il n'y a plus même les diffusions sur TF1 sur Spotify, comme il y avoir avant le JT, etc.
On consomme plus la musique de la même manière. Ouais.
Voilà. Donc là, voilà, tout a changé. Donc du coup, le marché aussi, là, en vrai, c'est passionnant hein, pour les équipes qui doivent développer maintenant les spectacles, parce que justement, tout se passe beaucoup plus dans le digital. On essaie de créer des choses sur mesure.
Et le spectacle que je jouais, il y avait encore des CD de titres qui existaient, quoi. Et donc, L'Envie d'aimer est sorti en CD de titres. Mon essentiel.
Mais j'ai Le Roi Soleil en.
Le Roi Soleil, mon essentiel.
L'album,
être à la hauteur.
L'album.
Tout est sorti en physique ouais. Mais en CD de titres, quoi.
Mais
avec
c'est vrai
la phase A, phase B, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Donc il y avait la chanson originale, et puis en deuxième tu mettais une chanson du spectacle pour attirer aussi les gens en disant voilà ce qui se passe. Et puis on y allait, quoi. Il y avait des clips pour chaque. Il y avait, sur Le Roi Soleil, je sais pas, il y a eu peut-être 5 ou 6 singles, quoi.
Ouais.
C'est énorme, ça existe
mais,
plus.
Mais c'est vrai que sur les pratiques, quand on fait notre tour de table au début de chaque épisode, on est là, comment vous l'avez connu et tout. En général, bon, Mélanie et moi, on est les plus vieilles, donc bisous Mélanie, au passage, parce que j'ai dit on était les plus vieilles, mais comme bisous. On est toujours, ouais, alors je me rappelle, c'est passé à la télé, j'ai acheté le CD ou les machins comme ça. C'est toujours. C'est vrai que c'est associé à ces objets-là, quoi, et qu'il n'y a plus trop maintenant sur les
non,
plus
mais
récents.
C'est aussi parce qu'il y a le spectacle vivant, là, ça, en général, avec les attentats, donc c'est à partir de Résis que ça a commencé là-dessus. Il y a eu un gros choc et une habitude des gens qui a totalement changé depuis quand il y a eu ces attentats. Puis ensuite il y a eu des grosses manifestations. Après c'était les gilets jaunes où tous les samedis du coup les théâtres étaient fermés. Et ensuite il y a eu le Covid. Donc en fait les gens reviennent petit à petit dans les salles. Juste après le Covid c'était ça y est tout a repris, notamment grâce à ces gros spectacles. Parce que du coup, c'est une énorme promotion. Le théâtre, un peu moins. Tu vois, le théâtre parisien, en vrai, ils se remettent à peine de tout ça. Donc, je pense que tout va, en vérité, reprendre petit à petit. Mais du coup, le marché s'est un petit peu adapté.
Ouais, on ne consomme pas du tout la musique de la même manière. Aujourd'hui, c'est tout est dans le streaming. Quoi.
Et il y a beaucoup moins de création aussi. C'est ça qui est fou. C'est que là, moi, je sais que c'était pas. Moi, j'étais extrêmement heureux d'être sur Le Roi Lion. Mais je trouvais qu'on avait une rentrée entre Starmania, Le Roi Lion. Le retour de beaucoup de spectacles, même je parle de Star 80, etc.
De Paris, les 10 commandements qui reviennent également.
Voilà, c'est super, mais du coup, ça tue en vrai. Enfin, ça tue pas, mais je veux dire, il y a une vraie vibe de nostalgie. Notre spectacle
et
est complètement
spectacle est
là-dedans. Et pour le moment, il y a moins de place à la vraie création. Je pense que ça reviendra, hein, c'est cyclique.
C'est cyclique.
Et du coup, je pense qu'on est un peu plus sur
peut-être
de la nostalgie que, là, que de la création.
Peut-être qu'on est dans ce cycle où peut-être que les choses vont repartir et que les gens vont avoir envie d'aller consommer des créations, comme
je pense.
Tu parlais de Molière. lumière aussi, tu vois. De nouveaux spectacles qui arrivent et qui vont jouer dans des grosses salles et que ça va repartir, peut-être, on n'en sait rien, je sais pas comment ça va se passer.
Mais bon, moi je voulais rebondir sur la notion de comédie musicale, du coup tu y opposais entre guillemets le spectacle musical. Nous c'est une réflexion qu'on a régulièrement dans nos podcasts, est-ce qu'on est vraiment sur une comédie musicale, parce que on a malheureusement parfois des chanteurs qui sont chanteurs mais qui ne sont pas comédiens. Est-ce que vous avez un entraînement ? Est-ce que dans la pratique artistique, dans le comment ça se passe ? Est-ce que vraiment la comédie a la même place que le chant ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur un spectacle musical dans lequel on incorpore des petites scènes comiques, comédies
dramatiques ? Clairement, dans tous les shows qui sont faits au tout début, c'était très comme ça. Hein. Peut-être à part, Alibaba aussi, c'était différent.
Oui, il y avait beaucoup de théâtre.
Et puis Roméo et Juliette aussi, hein, il y avait beaucoup de théâtre. Sur les 10 commandements, c'était très particulier, on ne faisait que chanter.
Oui, c'est que du
et donc tout
Notre-Dame
était.
De Paris aussi, d'ailleurs.
Et oui, Notre-Dame de Paris.
Du chant, et visuellement, il se passait des choses, mais voilà, moi, on n'a clairement pas été la plupart. On a tous.
Et c'est pour ça que
ça a été un casting de chanteurs, pas un casting de comédiens, chanteurs, et vous êtes danseurs. C'est on cherche des chanteurs.
Et c'est ça la différence avec Broadway où
clairement voilà.
Après, je trouve que pareil le marché s'est adapté parce que mais du coup je comprends d'où tu pars et pourquoi justement tu fais cette nuance parce qu'en plus le spectacle a évolué en ce sens. Mais tu vois typiquement moi je prends ton rôle dans Mozart l'opéra rock tu vois qui était complètement aux antipodes de ce que tu avais fait avant et tout est très intéressant au niveau comédie. Et du coup, je te revendique, enfin, vraiment une des grandes qualités de comédien, tu vois.
Merci.
Et je pense que non mais du coup, je pense que en ce sens,
il a pas parlé de mes qualités de danseur, vous avez vu. Hein.
Ouais. Voilà.
On fait abstraction de ça.
Ça arrivera. T'inquiète.
On va revenir sur cette question.
T'inquiète. J'ai espoir qu'on puisse avoir 2-3 steps au Palais des Sports. Mais je pense que parce que moi, pour le coup, tu vois, on est typiquement, enfin, d'ailleurs, il s'occupe de Molière là, mais le fait d'avoir choisi Laetitia Chola, par exemple, pour Résiste, qui est vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de Molière et qui vient vraiment du théâtre. Moi, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, mais c'est bien d'avoir d'autres avis. Mais moi, pour le coup, je revendique vraiment le fait qu'on fasse aussi, enfin que ça dépende aussi de la comédie musicale. On appelle ça comme on veut, mais si tu veux, moi, j'ai vraiment vécu cette espèce de scission entre il y a la vraie comédie musicale et il y a ce qui se passe au Palais des Sports. Ouais, et je trouve que c'était pas des spectacles moins bien pendant longtemps. Je suis allé à Broadway. Quand j'étais sur Résiste et même quand j'avais fait Saturday Night Fever, et je me souviens regarder tous ces spectacles. Hein, j'étais allé voir Chicago, Le Roi Lion, Wicked, Kinky Boots. Enfin, je m'étais fait tout un truc pour m'inspirer. Et je m'imagine. D'ailleurs, j'ai parlé aux artistes à la fin, tu vois, et j'avais aucune honte de me dire mais venez voir notre show. Et certains étaient venus d'ailleurs au Canada quand on était au Canada avec Saturday Night Fever. Et effectivement, c'est très français cette manière de faire. C'est chaud comme ça, mais ça reste de la comédie musicale et surtout on n'a pas à avoir honte parce que justement ça s'exporte en plus dans le monde entier. On est très chauvin, donc on n'est pas assez, on s'intéresse pas à ce qui se passe à l'étranger ici. C'est vraiment dommage parce que la culture française qui rayonne à l'étranger, bah, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, les 10 commandements en sont pour beaucoup.
Et comme tu disais, il y a des spectacles quand ils tournent, ils sont en français, mais il y a aussi les versions traduites. Des fois, on en a écouté certaines. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même cette exportation qui est indéniable.
Est-ce que du coup, un spectacle comme la tournée des comédies musicales, lui aussi, il est typiquement français parce que les comédies musicales françaises sont des machines à tubes. Peut-être moins à Broadway. Est-ce que voilà,
non, là c'est un mix parce que du coup vraiment là on reprend des comédies musicales internationales et c'est devenu des tubes parce que bah aussi on se sert aussi beaucoup des jukebox musicaux.
Ouais.
Donc forcément Mamma Mia, Moulin Rouge qui est aussi du coup un prétexte pour nous de pouvoir chanter Lady Gaga, Britney Spears, Pink, évidemment. Bah je pense que c'est belle Jonathan Serrada. Non, c'est Je me voyais déjà.
Je me voyais déjà
pour le Palais des Sports. Mais en tout cas non, je pense que c'est plutôt pour le coup des réunions d'artistes de comédie musicale, ça se fait beaucoup à l'étranger, au West End et à Broadway, ça se faisait pas du tout ici.
D'accord.
Et maintenant, moi je suis très heureux qu'on ait eu le cran de le faire accompagné de Paraisy Productions et que maintenant visiblement c'est un modèle qui semble plaire et donc être reproduit par d'autres personnes.
On va citer quand même le reste de la troupe de la tournée parce qu'on ne l'a pas encore fait.
S'il vous plaît.
C'est vrai.
La troupe régulière, on va dire. Il y a donc un certain Damien Sargue avec une certaine Cécilia Cara. Mm-hmm.
Mais qui sont-ils ?
Des petits débutants de la
comédie musicale. Qui sont donc heureux ensemble en train de chanter Aimer en France, qui est nulle part ailleurs depuis 20 ans.
Ah donc, pardon, je fais une petite pause, Julien, pour une petite question. Mais donc, du coup, vous reprenez majoritairement vos propres titres ?
Oui, c'est ce que j'avais demandé,
ouais. Ou bien... Est-ce qu'il y a des crossovers
Si, il y a des crossovers. Oui, il y a plein de choses. Franchement, on chante des chansons qu'on a, dont les gens nous connaissent pour les avoir chantées.
Ouais.
Mais on reprend des titres qu'on ne chantait pas du tout. Et pas forcément de comédie musicale dans lesquelles on a joué. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
Et c'est quoi, du coup, le crossover le plus fun pour chacun d'entre vous à avoir fait? Ouh. Si ça spoil pas trop le spectacle.
Non, mais on peut pas. Il n'y a pas de spoiler, c'est un concert vraiment. Ouais. Tout est sur YouTube en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie, effectivement, Palais des Sports, où on va avoir les 10 commandements. Donc t'as Jeanine qui va reprendre évidemment le dilemme, Merwan, mon frère, avec Alexis par exemple, tu vois, qui n'était pas sur les 10 coms, voilà. Mais qui chante. Le Roi Soleil, le Roi évidemment. Mozart l'Opéra Rock, tu
Paris,
vois.
Avec Belle, que je chante. Alors je ne chantais jamais chanté.
Tu vois.
Que je chante avec Damien Sargue et Alexis.
Ce qui est intéressant
Loiseau,
comme crossover, c'est que t'as Damien Sargue, du coup, qui était doublure dans Les Dix Commandements, mais qui se retrouve dans Notre-Dame de Paris, ouais. Et qui se retrouve à chanter donc avec Hélène Segarra, Les Oiseaux qu'on met en cage. Tu
alors
vois,
qui n'a jamais joué le rôle de Quasimodo, par exemple.
Ouais. Un moment super. Ouais.
Donc, c'est surprenant.
T'as Cécilia qui se retrouve avec moi en train de chanter L'amour brille sous les étoiles. Bon, bah, c'était pas Manala, mais moi, franchement, je prends.
J'ai si hâte.
On vient de perdre Amélie.
Voilà, moi, je fais un duo avec Michelangelo Loconte et on se fait un titre d'Aladin, donc tu vois,
mon meilleur ami. Et en plus, en vrai, il y a une petite surprise, donc parce que comme Aladin rayonne dans tous les pays, Michele le fait en version italienne et lui le fait en version française.
C'est ça.
Ah génial.
Donc,
franchement, on s'amuse vraiment beaucoup.
On essaie de trouver des concepts.
Il y a une intertextualité qui est pas mal, effectivement, de voir du coup parce qu'on voit, quand on voit, on voit forcément Mozart, les deux de Mozart.
C'est trop bien.
Et puis toute la partie, que ce soit les chansons de Moulin Rouge, la comédie musicale, avec des grands hits adaptés pour ce spectacle-là qu'on incorpore au show. C'est ultra fun à faire, quoi. C'est ultra fun à faire.
Et bientôt, du coup, Merwan Rim qui fait une danse de cabaret au Palais des Sports.
Oh, waouh!
Je ne donnais pas des idées en mettant en scène.
Là, j'ai déjà une chaise et tout. Ok, tout va bien. Une corée de chaise pour Merwan.
Vous l'avez entendu ici en premier.
Exactement. On a une capacité à prédire des trucs à partir de blagues.
Oui. Je vous rappelle qu'on avait prédit Thomas Joly pour
c'est
Starmania.
Vrai.
Hein. Ouais, c'est vrai.
Je continue et je termine la liste des participants et des participantes. Il y a Ginny Lee.
Oui.
Il y a Priscilla Betty,
Flashdance.
Il y a Alexis Loison,
Grise.
Et il y a Michelangelo Loconte,
Mozart.
Et sur certaines dates, il y a également Hélène Segarra.
Sur toutes les dates.
Sur toutes les dates de la nouvelle tournée.
Ouais.
Parce que pour la petite histoire, elle était venue un peu en guest.
Ouais.
Bah c'est ça, oui.
Un peu pour prendre un peu la température. Et se dire, oui, je vais chanter avec les copains des comédies musicales. Et puis, et en fait, elle est tombée folle amoureuse du spectacle, de l'ambiance qu'il y avait dans la troupe. Et clairement, elle nous a dit, vous allez nulle part sans moi. Je veux être là partout.
Ouais.
Voilà.
C'est une belle histoire, en vrai.
Non, mais c'est sublime. Mais de toute façon, c'est une belle histoire qu'on est en train de vivre. Parce que justement, en vrai, on fait vraiment le truc à contre-pied. C'est-à-dire que d'habitude, mine de rien, la star, donc c'est le spectacle. Et on est tous au service du spectacle et des producteurs. Et du livret et tout ça. Même si, heureusement, on a la chance d'avoir fait vraiment la plupart que des créations. Donc, de participer à la création de nos rôles, des chansons, etc., du spectacle, de ne pas être juste des pantins, si je puis dire. Mais là, vraiment, c'est l'idée, c'est que ça, c'est une envie qui vient des artistes. Et donc, tout le show est conçu par les artistes, avec nos envies artistiques. Et l'idée, c'est que jamais on puisse dire non. S'il y a quelqu'un qui veut faire un truc, c'est oui, on va se débrouiller, on va voir, mais donc c'est
le spectacle dure 3h50.
c'est la durée aussi d'un podcast.
Ah non, c'est intense, on fait carrément notre première partie, c'est-à-dire qu'à 20h, c'est nous la première partie.
Oui.
Voilà.
c'est un kiff de pouvoir être sur scène quand on est artiste de comédie musicale sans être dans un rôle. Et de pouvoir s'amuser avec ses copains et copines de comédie musicale sur des chansons comme ça.
Il n'y a pas d'autre mot que kiff, parce que c'est vraiment ça, pourquoi on fait cette tournée, c'est vraiment on veut kiffer entre nous.
Puis on est nous-mêmes surtout, quoi. Voilà.
Ouais.
On est en dehors de chanter les chansons des spectacles dans lesquels on a joué, on chante d'autres chansons de spectacles voilà, les gens sont pas du tout habitués à nous voir là-dedans et on les interprète à notre manière. En fait, on joue pas un rôle, on est vraiment, on est nous-mêmes en fait.
Puis c'est fou ce qui se passe avec les gens. En fait, c'est plus ça qui est magique. C'est le lien qu'on arrive à créer là. Enfin, cette parenthèse de 2 heures, ouais, 2 heures et demie avec les spectateurs et de voir aussi que bah, on recrée encore une nouvelle fidélité de gens qui se retrouve en fait comme une... Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que le mot safe place est revenu beaucoup. Et ça nous a touché de ouf parce que c'est évidemment les valeurs qu'on veut transmettre et qu'on transmettait dans tous nos shows.
Ça rit, ça pleure, ça... On est, puis nous, même sur scène, on est touchés par le fait de voir ça aussi dans le public, quoi.
Donc c'est... Ouais, on revit, puis c'est très, très familial. Donc, parce que pareil, moi, j'étais assez surpris qu'il y ait autant de jeunes... tu vois, parce que justement, il y en a qui... Tout le monde a finalement un souvenir par rapport aux comédies musicales, parce que ça a été tellement matraqué à une époque.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est fou
de
voir...
C'est difficile de passer au travers.
Des gens qui ont grandi avec justement Notre-Dame, Lady Com, Roméo et Juliette, et qui ramènent au final leurs enfants maintenant, qui eux, pour le coup, connaissent très très bien le Roi Lion.
C'est ça, ouais.
Qui connaissaient Résist, qui connaissaient plus Mozart.
C'est transgénérationnel, en fait. Voilà. Il y a 20 ans, ces gens-là venaient avec leurs parents. Et c'était des ados.
Et maintenant, ils viennent avec
aujourd'hui, ils sont papa-maman. Et aujourd'hui, ils sont papa-maman, ils viennent avec leurs enfants. Donc, il y a les grands-parents, eux, et leurs enfants.
Ouais.
Et les enfants ne nous ont jamais vus nulle part, hormis sur YouTube, etc.
Ouais.
Et ils connaissent les chansons par cœur.
Ça, oui, mais ouf. Comme nous, à l'époque, on a tous eu ça, les CD des parents. Et du coup, quand,
bien sûr,
quand
clairement,
ça fait partie
mais ils connaissent
de notre
les chansons
et...
par cœur, c'est vraiment. Ouais, ouais. Ils sont ultra au fait de tout ce qui s'était passé à l'époque, quoi. Alors qu'ils ont 10 piges, quoi.
Et donc, dans le spectacle, c'est vraiment. Enfin, il n'y a pas du tout de jeu, pour le coup. C'est pas, par exemple, comme un Je vais t'aimer, où du coup, on essaie d'avoir des chansons qui donnent une histoire, etc. Là, on est vraiment plus sur.
C'est un concert.
C'est un vrai concert où on lit les chansons. Les unes avec les autres.
On parle aussi, hein,
et on parle beaucoup,
ouais.
et ça laisse beaucoup de place à l'improvisation aussi.
Ouais, on aime bien raconter les anecdotes, justement, de raconter ce qui se passe, que les gens nous ont connus, voilà, sur scène, et on a envie de raconter aussi ce qui s'est passé hors scène. C'est pour ça aussi qu'on a créé un peu le show. Et puis, bon, on essaie d'amener aussi des concepts. Enfin voilà, tu vois, par exemple, typiquement là sur cette tournée qu'on finit du coup en novembre, avant d'en reprendre une au printemps dans des théâtres un petit peu plus grands. Plus la date du Palais des Sports. Sur celle-là, là, on a amené, par exemple, typiquement le concept du Tinder musical. Voilà, je pense qu'on le refera au Palais des Sports.
Oh là là, j'ai hâte que ça soit.
C'est marrant, quoi, tu vois. Donc, c'est un vrai concert.
On parlait des débuts de Merwan dans la comédie musicale. Toi, Gwendal, quand t'as commencé, c'était déjà justement un univers un peu mieux structuré, un peu plus. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion ? C'est des spectacles français que tu as vus ou c'était plus l'influence de Broadway ou les deux ?
Non, alors moi pour le coup, j'avoue que moi j'ai pas du tout baigné dans l'univers parce que mes parents étaient vraiment pas du tout. On n'écoutait pas de français chez moi et encore moins de la comédie musicale. C'était beaucoup plus reggae, rock, alternatif, tout ça, machin.
Ouais.
Mais il est arrivé le casting du Roi Lion en fait qui correspondait un peu à l'époque Kundo Stress sur M6 donc les deux cumulés en fait je me suis dit tant mais c'est quoi ce truc on peut chanter, danser, jouer à la comédie sans choisir parce que quand même à l'époque c'était il y a 17 ans on mettait vraiment les gens dans des cases tu vois là où tout évolue. Parce qu'il y a
donc
des
tu as fait l'école de Carmen Arantz.
J'ai fait la Lion King School. Voilà. Ouais, donc j'ai pas fait l'école de Carmen Arantz, mais la Lion King School. Et ça m'a donné envie justement pour le coup de après poursuivre parce que vraiment je trouve que ouais ce qui se passe dans une comédie musicale sur scène c'est une espèce de lieu où tout est possible en fait, tu vois, et qui en plus fédère énormément de personnes, parce que même des artistes solo n'ont pas cette récurrence. Enfin, tu vois, moi je connais avec The Voice, tu vois, j'ai Amir, Kenji, tout ça, que j'apprécie beaucoup. Ils sont pas sur scène 7 fois par semaine ou 8 fois par semaine, tu vois. Donc, c'est quand même un art qui est très très galvanisant, tu vois, et qui demande évidemment une hygiène de vie et tout ça, mais et qui fédère énormément de gens, qui c'est toute une économie. Et donc c'est pour ça que ça me faisait rire à l'époque qu'on minimise ce truc-là, alors qu'en vrai, c'est un genre qui est très dénigré
en fait. C'est ça qui est, c'est tout. C'est pour ça qu'en fait, je pense que le côté les gens sont très parlent de safe space en voir votre spectacle, c'est que c'est un genre qui a été beaucoup dénigré. Donc quand on aime écouter des comédies musicales, on est content de se retrouver entre gens qui vont pas vous dire ah t'écoutes ce truc là mais c'est le machin qui passait 30 000 fois à la radio, t'as le cerveau lavé ma pauvre amie. Bon, c'est cool d'avoir des gens qui disent non mais en fait c'est vachement bien et c'est des super spectacles et des super artistes. Ah, et tout. On
là,
est content d'avoir
trouvé des potes hein.
Puis là oui vraiment c'est il y a un vrai truc de bienveillance en fait,
c'est ça, ouais.
Que ça soit nous vis-à-vis du public et puis le public vis-à-vis de nous, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas de voilà, nous après on a connu l'espèce de tu parlais de dénigrement,
ouais.
Nous on l'a connu, moi je sais que je l'ai connu au sein même des gens qui travaillaient dans le même milieu que moi.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'on on mettait carrément non mais le Roi Soleil, les 10 commandements, Mozart et Perrock, non mais ça c'est pas de la comédie musicale. Nous on fait de la comédie musicale.
Exactement.
Nous on joue ici dans des théâtres à Paris, on fait de la comédie musicale.
Exactement.
Nous on chante avec cette manière opéra de chanter, tu comprends, on joue la comédie, on danse, on est machin. Nous c'est Broadway, nous c'est le West End. Donc déjà on sentait déjà ce truc là. Sauf que nous, moi je me suis jamais posé en tant qu'artiste de comédie musicale à l'anglo-saxon. Jamais, moi je suis chanteur à la base. Chanteur pop. Jouer dans les groupes de rock aussi, donc voilà. Et donc déjà on le sentait ce truc là alors après tu vois le fait d'être aussi critiqué dans le sens par un public qui dit oui mais de toute façon c'est trop commercial, c'est trop tout ça, mais en fait
si c'est commercial, si les chansons peut-être parce que ça marche.
Si les chansons touchent le cœur des gens, c'est fini. Bravo, c'est super.
Tout.
Si ça vous touche pas,
le
c'est
plus
pas
dur
grave.
Pour une comédie musicale, c'est de trouver son public.
C'est
vraiment
pas grave,
parce qu'il y a des fabuleux spectacles qui. Enfin voilà. Mais et le plus dur, c'est de trouver son public et c'est très. C'est,
moi,
y a
j'ai jamais eu l'impression
beau,
de chanter une chanson en disant oh, je suis en train de chanter une chanson de merde. Jamais.
Ah
j'étais toujours en disant putain.
Ah non, et puis moi, tu avais
bien écrit quoi. Ok, mais rentrer dans le crâne, je la découvre, j'arrive en studio, je la découvre, on me dit tu vas la chanter, ça va être ta chanson.
Et c'est ça qui marche, c'est parce que
belle,
on aime
tout de suite, elle me rentre dans le crâne.
On aime nos chansons, c'est pour ça que ça marche.
Bah
parce
oui,
que moi, typiquement, je me suis déjà retrouvé à demander à Ginny ce que ça faisait de chanter pour la 3200 fois
le
dilemme, ou même Damien. Tu vois, je lui dis les rois du monde, ça va. Et le gars. Et il dit mais jamais de la vie je m'en lasserai, jamais de la vie, parce que ce que ça provoque chez les gens, c'est précieux, c'est beau en
clairement.
Fait tu vois, donc et tu le pars de déni, mais moi typiquement là moi je l'ai vécu en arrivant sur le Roi Lion, tu vois, typiquement quand on a annoncé mon nom et que le milieu qui se sentait en fait je sortais
ce
The
type
Voice
qui vient des comédies musicales,
voilà. Entre la télé et plus les palais des sports, etc. Tout ce que je faisais, les gens étaient gentils avec moi parce que justement ils se sentaient pas
dans le microcosme de la musique,
ils se sentaient pas menacés,
pas menacés ni en concurrence quoi que ce soit. Et puis là d'un coup j'arrive là et les gens, tu vois, ont commencé à me projeter toutes leurs insécurités finalement, tu vois. Et puis finalement on peut être à notre place aussi, enfin c'était bien prouvé que justement c'est puéril et qu'il y a de la place pour tout le monde, et que surtout en vrai on fait tous le même métier, on sauve pas des vies, on chante en fait, et juste on chante des
chansons. Vous chantez pas, moi certainement pas, mais vous chantez, vous trouvez un public, et c'est ça que ça dit aussi, quoi, c'est que vous avez trouvé un public.
Et le fait de te retrouver il y a quelques mois sur la scène des Trophées de la Comédie Musicale à co-présenter cette cérémonie, c'était un. Il y avait une part de réconciliation comme ça de ces deux mondes.
Bah moi, typiquement, tu vois, quand il y avait eu un brief, parce que bon, moi j'étais très heureux qu'ils pensent à moi. Après, c'est une cérémonie qui vaut le coup de grandir, tu vois, parce que avec les moyens, tu vois, qu'il faudrait, parce que du coup là, j'avoue que on a fait une version, on l'a préparé en deux semaines, quoi, tu vois le truc. Mais quand il y a eu un brief avec les auteurs, clairement c'était un point que je voulais aborder, tu vois. En tout cas, je leur ai dit, bah moi typiquement, j'aimerais qu'on arrête cette guéguerre à la noix, tu vois, de il y a la comédie musicale, il y a ce qui se fait au palais, il y a machin. Je veux dire, si entre nous-mêmes, tu vois, on n'est pas d'accord, ça n'arrivera jamais, parce que ce qui se passe en plus, et pourquoi on dénigre dans le milieu, pas même de la comédie musicale, mais dans le milieu artistique. C'est juste parce que les gens n'arrivent pas à le faire. C'est super difficile de chanter, de danser et de jouer la comédie. Et il y a plein de comédiens qui rêveraient de le faire et qui n'y arrivent pas, tu vois. Et comme ils n'y arrivent pas, c'est toujours plus facile de dire non, mais c'est nul que de dire franchement, non, c'est trop stylé, je respecte, tu vois. Et donc, c'est pour ça que nous, il faut qu'on soit ensemble, sinon c'est ridicule. Et pour le coup, ça, Broadway et le West End, tu vois, il peut y avoir, il y a de la place pour tout le monde. T'as des comédies musicales très classiques, comme des jukebox musicaux, comme même maintenant
tu vois, des spectacles qui sont comme Six, qui sont quasiment un concert, et il n'y a pas de problème en fait, tu vois, c'est juste tant que le public est heureux et vient dans les salles de spectacle et qu'on se fout pas de leur gueule, tu vois, et qu'on propose de la qualité, c'est le principal.
Dans le côté galvanisant, je trouve qu'il y a un point commun entre deux spectacles que vous avez fait chacun.
Je me doute de ce que tu vas dire.
Résiste d'un côté, Le Roi Soleil de l'autre, ou dès la première chanson. Alors Résiste, c'était avant la première chanson. C'est sur Dancing Disco.
Oui.
Lumière allumée, le public est dans un état de transe avant même le début du spectacle. Et Le Roi Soleil, c'est contre ceux d'en haut, c'est l'arrivée comme ça par le public. C'est des moments où vraiment.
Mais oui.
J'ai vu chaque spectacle plusieurs fois. On est dans un. Alors, ça nous ramène au concert, mais on est dans un concert de rock, quoi, en termes d'énergie et de galvanisation. Je sais pas si le mot existe du public.
Ça existe, bon, t'es dans les clous.
Comment vous vivez ce genre de moment, vous, de début de spectacle, de trucs hyper forts, arrivés par le public tous les soirs, ça devait être une expérience
Ah, j'ai eu. On a joué le spectacle 520 fois.
Ouais.
Je l'ai joué 512 fois.
Ah ouais.
Voilà, donc ma doublure, était très très mal tombée en fait avec moi. mais je l'avais prévenu d'avance. Hein. Je lui ai dit, écoute, mais moi j'ai rangé mon frein sur le 10 commandements quand j'ai commencé, j'ai rangé mon frein sur Gladiateur de Maxime Le Forestier. Voilà. Je suis là, j'ai enfin un premier rôle. Je lui ai dit, mon ami, moi, tu sais quoi, je vais être vraiment là tous les soirs. Quoi. Si je ne joue pas, c'est que je suis mort.
Et puis les producteurs qui ne voulaient pas te laisser.
Après, il y avait les producteurs qui ne voulaient pas me laisser aussi.
Bah attends, ouais.
Donc voilà. Et non, c'était intense, mais alors, c'était très particulier Le Roi Soleil parce que mon climax, c'était les deux premières chansons.
Ouais.
C'était j'avais. Contre ceux d'en haut et qu'avons-nous fait de nous. Et c'était vraiment les moments les plus difficiles à faire. C'est-à-dire que moi, il n'y avait pas de step by step dans le spectacle. Il y a plein de spectacles où tu commences.
C'est crescendo.
C'est crescendo, machin. Tu arrives à la fin du deuxième acte et là, boum, c'est ton truc, tu vois, les 10 commandements avec mon frère. Sur la fin du deuxième acte, bon, bah, tu vois, tu finis avec un truc. Après, je ne réapparaissais plus avant l'envie d'aimer sur le final. Mais là, c'était tout de suite, boum.
Ouais.
Et ensuite, après, je pouvais redescendre.
Et puis,
donc, c'était toujours. Tu vois, tout le monde était très chaud, backstage, tout ça. Moi, j'étais déjà. Le spectacle était à 20h30. À 20h, j'étais au taquet.
Ouais.
Déjà. J'étais au taquet. Il fallait qu'à 20h30, ça parte. Ouais. Et puis, je pouvais pas y aller en deux. Moyennement.
Le début du spectacle dépend complètement de toi à ce moment-là.
J'étais obligé de mettre un truc monstrueux dedans, sinon ça fonctionnait pas.
Ce qui est décuplé, justement, parce que. De ce que tu disais justement, on ne peut pas du tout s'attendre à ça quand on est en répétition. Mais jamais de la vie on s'attend à ce que l'ouverture ça tabasse à ce point que on s'attend à ce que nous, je me souviens, s'il te plaît, elle résiste. On savait même pas si on devait laisser un peu de temps après les chansons au cas où ça applaudisse. Tu vois, genre même Ladislas, ouais, tu vois, il était pas là. Genre, moi je sais, peut-être là on laisse un petit peu, tu vois, peut-être j'enchaîne pas direct.
Le paramètre applaudissement, des fois on le laisse pas du tout,
mais tu sais pas, tu vois, parce
on laisse un blanc là,
justement,
on sait pas trop.
Et tu racontes
ta première et puis tu dis, putain, merde, ah ouais, on l'a oublié. Ok, là il faut là, la place.
Et c'est ça qui est magique, et c'est ça qui fait qu'après tu te mets une pression parce que tu sais que c'est un moment qui est attendu
avec les gens, tu peux pas.
Mais quand justement le public s'empare du spectacle vraiment, et ce qui s'était passé sur Résiste, c'est clair,
on sent vachement sur Résiste,
pendant le show, tu vois. Bon, bah là c'est un bonheur, mais je souhaite à n'importe quel artiste de vivre ça un jour, c'est fou en fait.
Ouais.
C'est...
Et puis surtout, on s'attend pas du tout à. En fait, on sait pas de quoi on est capable, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, moi sur Le Roi Soleil, on est arrivé, on me dit, tu vas être ici, là il va se passer ça, là il va y avoir des canons qui vont vraiment tirer. Tous les soirs, il y aura de la poudre, ça va partir en canon, ok, très bien. Là, ici, tu vas faire ça, tu vas monter sur cette échelle-là, tu vas sauter de 2m50. Ouais, d'accord. Et puis, le jour de la première, j'ai toujours pas reçu mon costume.
Ah, ouais.
Et mon costume arrive le matin.
En plus, c'est un costume de cuir, c'est un truc lourd.
Mon costume arrive le matin même, et on joue le soir notre première, public. C'est pas genre un filage, hein, c'est la première. C'est-à-dire que les filages d'avant, je les ai joués, j'étais en jogging, quoi, tu vois. Voilà.
Ouais, et bizarrement,
et là, je reçois mes cuissardes. Cuir avec des talons comme ça, des trucs genre de Francis Lalanne, quoi, tu sais, c'est ce qu'il porte,
ouais.
Tu vois,
complètement.
Et ça arrive, et les pompes, je les regarde comme ça, je les pose et elles tiennent debout. Elles se plient pas, tu vois.
Et elles pesaient combien de kilos par chaussure?
Je me dis, bon, bah ça, je les mets, et en fait, je me rends compte que je peux pas plier les jambes, c'est trop dur, c'est du cuir véridique.
Il faudrait que tu les fasses.
Et là, on m'amène ma veste. La veste arrive, elle fait 4,50 kg.
Oh la hache.
Je la mets, je me dis, mais les amis, quand est-ce que je cours avec ça? Est-ce que je vais monter dans les escaliers, redescendre, sauter sur le truc, monter sur l'échelle et redescendre? Je dis, c'est compliqué, quoi. Et puis, le spectacle arrive. Et on fait notre première en conditions réelles.
Et il y a cette magie avec le
spectacle. J'ai le costume, j'ai tout. Il y a les canons sur le côté, ça tire. Et moi, je suis en transe, quoi. Et en fait, je suis vraiment dans mon truc. Et tu sais pas par quelle magie t'arrives à faire les trucs. Alors que,
il y a tellement
alors
de
que deux heures avant, alors que deux heures avant, tu te dis, mais c'est mort, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver.
Voilà. Amélie,
t'avais une question. Non, j'allais juste te dire, en plus, l'ouverture, c'est quand même assez. C'est un gros. C'est une grosse responsabilité, ouais, quoi, parce que ça donne le ton de ce que va être le spectacle, etc. Ça, ouais. Et réussir à prendre le public. Alors, bon, normalement, enfin, moi, je sais que quand je suis dans le public sur les ouvertures, je suis genre dans un espèce de truc un peu zinzin, tu sais, genre vraiment, j'ai les yeux qui retournent de l'autre côté de la tête, quoi. Mais
c'est quelque chose à voir, apparemment. Hyper...
De quoi ?
Ça a l'air d'être à voir.
faut pas voir le spectacle, faut voir moi qui regarde le spectacle.
C'est ça.
Mais du coup, ouais, non, l'ouverture, c'est quand même hyper important. Enfin, dans n'importe quel show, la première place, c'est hyper. Enfin voilà, un
t'es même triste quand t'en fais partie. Tu vois. Moi, je sais que sur le Roi Lion, de pas être sur l'ouverture, j'étais genre.
C'est vrai
oui, parce qu'en fait, t'as aussi un truc de. T'es stressé et tout, avant le spectacle et tout machin, et après quand tu démarres pas en même temps que les autres, tu sais, t'as un truc de. Les autres, ça y est, ils sont plus stressés, et toi t'es toujours là en mode. Oh, tu sais, ça monte, alors que tout le monde est détente, tu vois, ça fait le truc, et j'avoue que. Ouais, on a fait des shows pour lesquels les ouvertures étaient vraiment assez dingues, et à vivre, c'est quand même assez fou de voir ouais, le public comme ça qui d'un coup se dit waouh, ouais, ça y est, j'y suis, et je suis à ma place. Et on va passer une bonne soirée, quoi.
Sur le Roi Lion, le ressenti, il est assez différent, parce que ce qui est rigolo, c'est que pendant les chansons, souvent ça moufte pas et ça explose dès la fin des chansons, le public, parce qu'il y a ce truc de alors peut-être que c'est la mise en scène qui fait ça, et le côté féerique de la mise en scène, mais le ressenti vis-à-vis du public, il est différent par rapport à un spectacle comme Résiste.
Bah oui, parce qu'en plus, même en termes de son et tout, c'est différent. Ils veulent absolument ça me saoulait un peu d'ailleurs, mais tout est un peu différent. Donc tu vois, on a des micros différents, donc ils sont plus sensibles, donc les gens sont obligés de tendre beaucoup plus l'oreille, parce que le son la direction artistique du son, notamment pour cette reprise, était vraiment d'aller plus dans l'acoustique, donc plus dans le théâtre. Donc fallait tendre un peu l'oreille, tu vois, sinon il y avait des choses que tu pouvais perdre, alors que justement sur les shows qu'on avait fait, enfin tu vois, au Palais des Sports, on est sur des sons qui étaient justement plus concert, donc t'entends tout. Il y avait un travail aussi qui était fait en termes de spatialisation. Ouais. Donc si t'es à gauche, t'entends plus, le son va aller plus à gauche, machin. Nous, ça nous est bizarre, c'est vrai. Enfin, moi, je préfère, parce que pour le confort et la précision, c'est vachement mieux quand on a des ears et tout. Mais donc parfois, le Palais des Sports, la scène, elle fait quand même 25 mètres.
Oui.
C'est extrêmement bizarre parfois de se parler, on est à 25 mètres d'écart, et de se parler comme je te parle là, alors qu'on est à la même table, tu vois. Donc, mais effectivement, après, c'était aussi. Puis il y a tout ce travail d'underscore. Enfin, il n'y a rien qui est fait au hasard, tu vois, sur le Royaume. Même, il y avait même des trucs où j'étais frustré. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait dans le parcours de Simba. Qui je parle de l'acte 2 en tout cas, donc quand il est grand, il arrive vraiment, le mec est complètement perdu, tu vois, et tout son parcours, sa chanson, etc., machin, Can You Feel et tout ça, jusqu'à Il vit en toi, où enfin il a trouvé, genre ça y est, j'ai trouvé, il faut que j'aille sauver les gens. Et c'est pour ça que les gens explosent, c'est parce qu'ils ont été frustrés, tout comme moi. Que parfois, même moi, à la fin de ma chanson solo, je pouvais, sauf quand les gens étaient un peu insolents, tu ne peux pas applaudir. Tu vois, c'est pas musicalement et tout, ça termine pas comme.
Est-ce que c'est musicalement ou est-ce que c'est aussi le lieu qui fait ça ? Enfin voilà, le public théâtre versus le public salle de concert aussi. Est-ce qu'on se sent plus obligé de oh merde, j'ai pas le droit d'applaudir ?
Non, c'est pas vraiment le lieu, parce que pour le coup, en plus c'était vachement familial. Tu vois, le Roi Lion, justement, il y avait beaucoup de gens pour qui c'était le premier spectacle, donc ont pas du tout les codes théâtre de se dire la fausse terre et tout.
Ouais.
Mais c'est plus la mise en scène, tu vois, qui fait justement, et c'est des astuces musicales. Quand tu termines pas, tu connais mieux que moi, tu vois, il y a des accords qui te spécifient bien que c'est la fin, comme il y en a d'autres où tu dis ah, il manque une note, finalement elle arrive pas et ça continue, tu vois, des effets lumière, parfois les gens s'arrêtent en frise, etc. Enfin, le noir, enfin voilà, je vais pas vous apprendre. Mais
oui, ouais, c'est vrai que quand on arrive à la reprise de Elvire en toi, là, il y a ce truc qui nous remet dans dans cette ambiance qu'on a plus au premier acte.
Ouais. Mais il y a des moments aussi, tu vois, justement, dans les mêmes. Moi, je trouvais ça trop beau au Palais des Sports, qu'il y a dans chaque spectacle, hein, il y a des moments un peu dramatiques et tout. Quand t'arrives à avoir le silence de 4000 personnes, c'est quand même assez fou à vivre. Ouais. Tu vois, quand ils sont tous là en train de. C'est quand même fou.
J'ai un souvenir de Résiste qui était un truc fou et je me souviens, je me demande si j'ai pas versé ma larmette quand on en a parlé dans le podcast. C'est le silence de la fin de Au revoir Angelina, avant le moment où le père balance le verre et ce truc, j'en ai des poils là. Non,
tu vois,
parce
ça,
il y a pas un bruit effectivement.
Non, et c'est tu vois, ça justement c'est magique. Ouais. La chanson est terminée, c'est bon, on a compris couplet refrain pont refrain. Je pense c'est bon en fait. Salut bye. Les danseurs sont partis et tout. Effectivement, t'as 15 secondes de silence avant que.
Parce que les gens ont pas entendu couplet refrain, ils ont juste vécu le truc. Quoi.
Ouais.
C'est ça.
Tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est magique.
Et tu vois, ça dépend aussi du public.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais, carrément. Tu fais le tour de France, tu vas pas avoir les mêmes réactions à Marseille, Lille, à Dijon et à Lyon, ça va être différent. Mais après, moi, j'ai un exemple qui est vraiment, pour le coup, extrême. C'est quand on est parti jouer les 10 commandements au Japon.
Ah bah, j'allais te poser la question, le public asiatique est très différent.
Alors, ça se passe comment? C'était lunaire. C'est-à-dire que le spectacle se jouait et puis on se regardait tous en disant, mais ils détestent ou qu'est-ce qui se passe? Ils détestent. C'est-à-dire que.
Pas un bruit.
Début du spectacle, pas un bruit. Jusqu'à la fin du spectacle, pas un bruit.
Ah ouais.
Entre les chansons, personne n'applaudit. Oh. Alors que nous, entre les chansons, il peut y avoir.
Mais
alors que nous, entre les chansons, il peut y avoir 5 secondes de vide. Tu vois?
4 ans de psy.
En se disant, il y a 5 secondes pour que les gens applaudissent et puis on passe à la chanson qui suit. Là, c'est la chanson se termine. Genre, t'imagines le dilemme se termine, tu vois? Ginny finit de chanter. Rien. Oh.
Mais je l'imagine là, sentir le dans une
quand t'as été habitué à faire le tour de la France et à chaque fin de chanson c'est tu vois, et là il se passe rien du tout, donc on était en mode qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vraiment on l'a bien fait de venir? Et en fait pas du tout, c'est culturel. Et en fait la dernière chanson du deuxième acte, l'envie d'aimer arrive, Moïse est seul. Et là, on fait tomber le mur, en fait, donc on est vraiment face aux gens, et on les regarde, et on commence à chanter l'envie d'aimer, en fait, face au public. Et en fait, personne ne se lève. Personne n'applaudit, ni quoi que ce soit, et tout le monde était en panique en se disant...
On dirait un énorme
c'est prank. Mort, c'est mort, c'est fini, ils ont détesté, tu vois. Et en fait, c'est culturel. Personne ne voulait se lever ou applaudir pour ne pas déranger son voisin. C'est les Japonais, c'est comme ça que ça marche. Donc quand tu vas au théâtre, ou au cinéma, ou à un concert... Tu n'applaudis pas n'importe comment pour pas déranger le public qui est avec toi. Et en fait, à la fin, Moïse, qui était joué par un chanteur italien, quand on était au Japon, il leur faisait signe, en fait.
Logique.
Non, non, vraiment. Il Sergio,
italien,
Sergio.
C'est ça.
Il est italien, en fait. Pourquoi? Parce que le cast des 10 commandements au Japon, il était moitié français, moitié italien.
Ok.
Voilà. Parce que les 10 commandements existaient en Italie, en version italienne.
C'est vrai.
Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est exactement la même mise en scène.
Exactement pareil. Ouais. Toutes les chansons en italien. Et en fait, c'était le Moïse italien qui est venu jouer au Japon.
Et du coup, il leur applaudissait comme ça.
Du coup, il les regardait comme ça, et puis il leur faisait signe de venir, genre vous pouvez vous rapprocher. Et les gens se regardaient, genre il a raison ou pas? Non, on va déranger tout le monde. Et puis il leur faisait vraiment signe, venez, rapprochez-vous. D'un coup, les gens se levaient, et t'avais une marée humaine qui arrivait devant, parce qu'ils comprenaient qu'on leur donnait l'autorisation de le faire, sinon ils voulaient pas le faire. Et pendant toutes les chansons, c'était ça, ils voulaient pas déranger en fait. Et on a compris ça que quelques spectacles plus loin. Voilà.
Amélie.
Non, j'allais dire, comme on parlait du Roi Lion juste avant, j'avais une petite question pour Gwendal sur le côté boucle, encore une fois, puisque du coup, on disait Palais des Sports, commencer par rentrer dans le public et boucler un an plus tard en étant sur scène. Gwendal, toi, du coup, tu avais fait la Lion's King à Canebine, tu nous disais tout à l'heure. Tu devais être Simba Junior. Finalement, aujourd'hui, tu es Simba
senior.
Senior. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça... J'imagine que tu avais été très frustré à l'époque, ce qui s'entend totalement. Et du coup, là, ça a dû être le...
Bah oui.
L'espèce de revanche sur la vie.
Non, c'est fou, en fait. C'est, soit c'est revanche, soit c'est genre, en fait, faut y croire, en fait. Ouais. Tu vois, j'avais dit ça, cette phrase en l'air. Où je m'étais dit genre c'est pas grave, je ferai Simba adulte, mais sans aucune conviction, parce qu'en plus le spectacle ne se jouait plus, enfin tu vois, genre, et pour qu'un spectacle revienne c'est quand même super rare en France, c'est l'une des premières fois, tu vois. Donc là, le fait que ça revienne, que finalement ce soit moi, Ouais, c'est fou. Enfin, vraiment, là, ça a été un bonheur. Et d'ailleurs, je me suis jamais lassé du show. Hein. C'est autre chose de jouer 8 fois par semaine, tout le temps à Paris. Pas partir en tournée, moi, ça m'a vraiment. Ça a été dur. C'est pour ça que justement, j'étais trop content de partir en tournée avec les Comédies Jusqu'à le concert. Tu vois, c'était mon oxygène. Mais je sais que voilà, j'ai joué 580 fois en 2 ans. Je me suis amusé les 580 fois. En revanche, c'est tout le à côté qui m'a saoulé vraiment à la fin. Parce que c'est une usine, quoi. Tu vois, et Broadway, déjà de base, c'est une usine, mais du coup, Mogador aussi, d'une certaine manière, tu vois, parce que ça fait 15 ans qu'ils ont un show tous les soirs.
Oui.
Donc les gens sont habitués, enfin, tu vois, ce qu'on peut ressentir, nous, quand on crée un spectacle, donc où on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si ce qu'on a pensé en répétition va le faire, que du coup, toute la partie du Palais des Sports, c'est du work in progress, tu vois, parce qu'on démarre avec une version, et puis on se rend compte que, ah, mais là, peut-être que si on rajoutait, allez, 4 phrases, ça permettra à lui de se changer mieux, enfin, toute ces questions-là, forcément, à Mogador, elles ne se posent pas, puisqu'on achète des spectacles qui sont tout faits et qui fonctionnent, tu vois. Donc c'est pareil, les répétitions pour ce genre de projet sont assez particulières. Enfin, nous, on était assez. Quand tu as l'habitude de faire des créas, ces choses, tu ne crées pas. Donc en fait, tu ne fais qu'apprendre. Donc c'est.
T'as pas de marge de manœuvre du tout.
Si. En vérité, les équipes américaines là, du Roi Lion, elles étaient charmées parce que justement, on a pu réadapter justement en français des dialogues et tout. Puis les équipes françaises aussi, tu vois, Dominique, le chef, le directeur musical, il me laissait faire ce que je voulais sur scène et tout. Donc, faut pas que je dise trop fort, mais tu vois, donc zéro frustration à ce niveau-là. C'est juste que c'est un autre mindset et que du coup, quand t'es en répète, j'avoue que bah, tu ne fais qu'apprendre. Donc tu vois, t'as pas de temps de créa où tu fais, puis tu te trompes, puis tu gommes, puis tu machin. Là tu pars sur un mois et demi et c'est d'une intensité folle, tu vois. Et après, donc du coup bah, le fait qu'il y a un show qui se joue tous les soirs là-bas, c'est normal, tu vois, pour toutes les équipes autour. Et donc c'est pareil, t'as la même loge, les mêmes personnes, le même rituel, tu vois, et moi c'était tout ça à la fin, de les 45 minutes de préparation, la routine, qui effectivement me saoulait un peu, parce que on fait pas ce métier, enfin moi perso je sais que j'ai pas fait ce métier pour être aux 35 heures et devoir prendre des RTT quand je fais des heures sup, quoi. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe là-bas.
Moi j'avais une question pour toi Merwan, sur le Roi Soleil encore, mais j'en aurai sur d'autres spectacles.
Et je c'est regarde son spectacle préféré.
Comme tous les spectacles.
Comme tous les spectacles. Mais quand
c'est
même.
Toujours mon spectacle.
Ça fait quand même partie
soleil,
de ton.
De mon palmarès.
Ouais.
Et après, il faudra qu'on revienne sur le spectacle des comédies musicales et qu'on conclue parce que je vois le chrono qui tourne.
Ouais.
Le Roi Soleil, c'est le premier spectacle de cette envergure à être passé. Pendant l'exploitation du spectacle, de la bande-son à l'orchestre. Qu'est-ce que ça change dans la façon de faire le spectacle? C'est une de mes marottes, hein, le musicien.
En fait, on avait une bande-son qui tournait, voilà, qui était calée avec la lumière et avec... voilà. Sauf qu'entre les chansons, on avait un quatuor qui était sur scène et qui faisait les passages. Ouais. Toutes les scènes de comédie, elles étaient live, en fait, avec un quatuor. Donc c'était deux violons, un alto... Non, c'était un quintet en fait, parce que c'était deux violons, un alto, un violoncelle et un clavecin.
Ouais.
Donc voilà, c'était un quintet en fait. Et en fait, c'était libre. C'est-à-dire que des fois, ça pouvait bouger un peu, quoi. Donc en fonction de comment on jouait les scènes de comédie. Donc c'était comme ça que ça se passait. Mais le retour au Palais des Sports, on est arrivé cette fois avec un vrai groupe pop-rock derrière qui était là. Et ensuite, quand on a fait Bercy, on a fait la même chose avec le pop-rock. Et le quintet qui était sur scène avec nous pour les scènes de comédie, et on avait un philharmonique qui était sur le côté. Donc c'était juste complètement taré.
Ouais.
Merci. Voilà. Donc c'était complètement fou à vivre. Et puis.
Et à partir de là, finalement, quasiment tous les spectacles pendant un certain nombre d'années sont rentrés là-dedans. Mozart, c'était pareil, il y avait l'orchestre sur scène.
Ouais. Aussi, ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les mêmes producteurs, en fait.
Ouais.
Que ce soit Dovatia, Albert Cohen, avec Elie Chouraki. J'ai toujours travaillé avec ces gens-là, en fait, quasiment à chaque
fois. Dovatiaverse, on l'appelle.
Le fameux Dovatiaverse, ouais.
Pardon ?
Le Dovatiaverse, on l'appelle.
Le Dovatiaverse.
Ah, carrément.
Ouais.
Ah non, mais franchement, pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui a signé un paquet de succès en France dans cette période-là, c'est bien lui.
Ouais. C'est des spectacles qui sont identifiables, qui ont une patte.
Moi, pour le connaître vraiment bien, pour avoir travaillé avec lui, c'est un bourreau de travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste producteur. Il est partie intégrante, artistiquement parlant. On ne le sait pas toujours, Il signe les compositions, il écrit les textes. Des fois, il veut pas mettre son nom sur certaines chansons parce qu'il a peur de la réaction des gens, mais sauf que c'est lui de A à Z la chanson. Mmh. Sur Le Roi Soleil, c'est arrivé plein de fois, sur Mozart Opéra Rock aussi. Et il a la mise en scène, au livret, il met la main partout en fait, et c'est son bébé quoi. Mmh. Et il n'arrête pas.
Ouais, j'ai revu il y a pas longtemps des images du making-of de Mozart, ouais, sur lequel il fait venir la troupe pour répéter chez lui avant une promo.
On l'a fait dans tous les sens. Le nombre de fois on a fait des trucs comme ça chez lui où il arrive à ah, les amis, j'ai une super idée, on va chanter telle chanson, machin, j'ai trouvé une nouvelle chanson qu'on va rajouter au spectacle, blablabla. Et alors, t'écoutes les chansons, elles arrivent, la maquette elle est faite, sauf que bah, la voix témoin c'est Dovatia. Et t'as envie de mourir. Et t'entends Dove en train de chanter, c'est tellement drôle. Et là je dis, mais Dove, qu'est-ce que t'as voulu faire comme note là? Non mais la note c'est ça, attends je te la fais au piano, blablabla. Là tu lui fais, tu dis, mais c'est pas du tout ce que t'as fait sur la maquette. Non, mais tu me comprends machin, je suis pas chanteur. Bah oui d'accord, mais
maintenant qu'on a réussi le défi dans le podcast d'avoir Merwan Rim, je pense que le prochain défi pour ce podcast c'est de réussir à trouver ses pistes.
C'est la maquette de Dovatia.
Passionnant.
Et le faire chanter du coup.
Et le faire chanter.
Il chantera au micro de ici. Je fais comme Gwendal, je lance des trucs et ça arrivera.
Non mais il peut sortir un album de maquette en fait. Vraiment.
Moi je l'ai chez moi, la maquette de l'aubergiste dans Mozart Opéra Rock. Chanté par Dovatia. Oh c'est beau ça.
On aimerait tellement mettre la main dessus.
Oh, c'est beau ça.
Quel est le prix?
Pourtant, je me suis découvert un point commun avec Dovatia du coup, c'est cool.
Les maquettes.
Pas savoir chanter.
Voilà. Sur Mozart, tu avais deux rôles différents.
Ouais.
C'est pareil, comment on aborde le fait de changer complètement de rôle, en plus avec des rôles aussi différents qui étaient l'aubergiste et puis le clown, je ne sais
le
pas s'il avait
ça,
un nom,
c'est le clown.
Ouais, avec des chansons pareilles aussi différentes dans une partie et de l'autre du spectacle, c'est particulier.
Moi,
j'étais comme ça.
Ultra heureux de ce défi-là, en fait, parce que je n'ai pas du tout été habitué à ça, en fait, sur les autres spectacles dans lesquels je jouais, que ce soit Les Dix Commandements ou Le Roi Soleil, j'avais un rôle, je ne pouvais pas en sortir, c'était vraiment un tunnel dans lequel j'étais. Voilà. Donc, et là, j'avais vraiment, mais fais ce que tu as envie de faire, quoi. Mmh. Et plus tu seras taré, plus ça va nous faire plaisir. Et j'étais, vous êtes sûr? Vraiment? Ok, ça marche. Donc, j'ai proposé des choses, et puis à chaque fois, on était vraiment ouvert à la discussion. C'était un vrai plaisir de travailler avec Olivier Dahan à la mise en scène sur ce spectacle-là, parce qu'il était c'est un monsieur assez taciturne en fait, et il est très parle pas beaucoup en fait, il est quelqu'un de très introverti, et à chaque fois que je proposais quelque chose, je voyais un sourire se dessiner comme ça sur son visage, et c'était déjà ouais ça me plaît, ouais on garde ça. Et puis je le voyais faire des croquis constamment, c'est-à-dire qu'il regardait le spectacle et puis passer son temps à dessiner, je me disais mais il regarde pas du tout ce qu'on fout, en fait c'est pas possible quoi. Et à la fin des tout premiers filages, je vais le voir discrètement et puis je lui dis j'ai une question à te poser vraiment, qu'est-ce que tu fais pendant le spectacle, on te voit dessiner, c'est un peu perturbant. Il dit bah je dessine en fait ce que je vois, et là je vois il me sort des dessins, des trucs, et donc j'ai un croquis de moi en aubergiste dessiné par Olivier Dahan. Le clown démoniaque dessiné par Olivier Dahan, et toutes ces idées de je vais rajouter ça dans le costume, etc. Je les ai gardés, je les ai avec moi, hein. Ils sont chez moi dans une petite enveloppe bien au chaud, et c'était trop beau quoi. Je me disais en fait ouais voilà, donc c'est ça en fait.
Mais ça m'étonne pas tellement ce côté un peu création et tout, parce que je me souviens quand c'était fait la réflexion aussi que pour Yamil Dib, j'ai l'impression qu'en fait aucune représentation n'était la même. Clairement, il y a des moments, je sais pas à quel point c'était Yamil théâtralisé ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments, il était en total impro, le gars était en roue libre.
Et on lui disait la trame c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Après, tu fais ce que
Yamil,
tu veux.
Mais c'était impossible de le tenir.
Ça a l'air.
Et en fait, il a une propension à comment dire, à l'improvisation qui est assez ahurissante.
Ouais.
Et chaque soir, c'était différent. Donc, on avait des scènes qui duraient des fois des plombes. Mais quand je te dis des plombes, c'est vraiment des plombes.
Ça cabotinait, hein.
Et puis, avec des trucs où, tu vois, ça partait dans des choses. On se disait, là, peut-être on va un peu trop loin, quoi. Il y a mis stop, arrête, quoi. Mais c'était drôle parce qu'il nous cueillait à chaque fois, quoi. Puis,
ouais.
Et puis,
il est très fort.
Et puis, on a fait tellement de... Il y a eu tellement de bourdes sur les scènes de comédie où des mots qui devaient pas sortir sont arrivés. Et on se disait, bon, j'espère que personne l'a entendu, mais il y a 4500 personnes dans la salle. Et puis, on se dit, bon, on va faire comme si de rien n'était. Et puis, Yamin te regarde et te dit... Il te dit exactement la phrase que tu viens de dire juste avant. Je dis, mais pourquoi tu la répètes, quoi? t'as personne n'avait entendu le truc, il y a que toi qui l'as entendu, pourquoi tu le répètes? Et donc on se retrouvait sur des trucs comme ça, c'était assez fun, assez marrant. Mais il est très très fort. Moi, pour moi, Yamin, c'est Louis de Funès, quoi.
Ouais.
C'est
vraiment il ça. Il a un côté comme ça.
Être capable de. On lui dit la scène, c'est ça, en fait, et puis bah, lui, il a créé. Il en fait un truc complètement taré, quoi. C'était complètement fou à chaque fois. Le nombre de crises de rire qu'on s'est tapé backstage.
Vous arriviez à attendre d'être backstage pour avoir les crises de rire, c'est déjà bien.
Moi, ça m'est arrivé avec lui sur les scènes avec Salieri, quand je jouais le rôle de Salieri, où il me dit des trucs, mais abominables. C'est pas possible, comment je vais tenir? Je suis censé être.
Il y a eu des scènes, c'est la sa symphonie qui arrive juste derrière, non?
Oui, justement. Et lui, il me lance comme ça sur un truc et tout. Il dit arrête-toi. Et je vois qu'il continue, il a envie, il a l'œil qui commence à. Ah, ça va être drôle, ça. Et moi, je me retourne, je me mets dos au public, je me mords la joue. Là, ouais, je me mords la langue. Ok, je me retourne, je suis face au public. Là, c'est bon. Et je lui dis un truc et il fait genre ah, quoi. Je dis non, vous m'avez très bien compris.
Et là,
1, 2, 3, 4. Et j'entends le décompte de la symphonie qui arrive. 1, 2, 3, 4. Tink, 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 tink. Et là, je suis ok, c'est bon, c'est parti. Il y avait vraiment des moments où il fallait vraiment que j'oublie à mi-libre, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on arrive,
oh mon Dieu.
Ça arrive, alors sur un spectacle millimétré comme Le Roi Lion, ça arrive ce genre de truc aussi, un fou rire, un décrochage.
Ah ouais, il est sur YouTube, j'ai les nerfs.
Ah ouais, j'ai les nerfs. Ouais, ça donne envie d'aller chercher.
C'est Le Roi Lion pour le coup, moi c'est le premier show où je peux pas rire, ouais. Vraiment, parce qu'en vrai, dans Résiste, Saturday Night Fever, si j'avais un fou rire,
oui,
il y avait des trucs qui passaient dans le sourire et tout. Franchement, je me démerdais toujours. Donc du coup, j'avais l'impression que j'étais un roi de la concentration et tout, alors que pas du tout, je suis le pire. Non mais faut savoir, c'est-à-dire que moi, tout de suite, je suis comme ça. Enfin, vous voyez pas, mais tu vois, tout de suite, je me pince les. Enfin, j'ai le sourire très facile et je suis le pire. Et genre, bah, au bout d'un moment, je sais qu'avec. Olivier, il est chanté, mais Scar, lui, ça trace. Donc, dès que je partais, lui, il me regardait en mode, bah, pas du tout ma puce. Genre, ça n'arrivera pas ce soir. Mais oui, quand ta langue, elle fourche, tu vois, ou quand justement, en vrai. Il y a tellement de choses qui se passent sur scène que les gens ne voient pas. Tu vois, quand on voit les danseurs qui sont soit ils sont au bout de leur vie, tu vois, ou soit il y en a un qui manque de se péter la gueule, tu vois, un autre qui fait n'importe quoi, ou carrément les danseurs qui te font des grimaces, tu vois, pendant que t'es là. Et moi, je sais qu'en fait, il y avait une scène où j'avais beaucoup de. Enfin, L'amour brille sous les étoiles, je trouvais que c'était l'un des costumes les plus. Ridicule du spectacle, tu vois, c'est trop mignon, mais quand même, en fait, l'ensemble est beau, mais quand tu les prends tous un par un, les mecs là, dans leur truc d'arbre, de plantes et tout, parfois il y avait des têtes, tu vois, et parfois parfois j'étais, bah, tu vois, toi t'es dans l'histoire et tout, tu penses pas, et il y avait des fois où j'étais extrêmement, je revenais dans la réalité où je fais, mais moi vivant, jamais je pense ça, tu vois, genre. Donc je les voyais comme ça, tu vois, et parfois c'était avec Nala, tu vois, Cilia, mais elle était extraordinaire, on avait une connexion qui était folle, et donc parfois ça se voyait, tu vois, qu'on était dans le mal, qu'on y allait quand même, ou que tu vois, genre parfois sur les portées que je faisais juste avant, parfois on aurait dit que je bois pas d'alcool, on aurait dit que j'étais bourré, je tournais pas droit et tout, parfois je la reposais un peu bizarre, tu vois. Et donc à la fin on finissait sur « Il suffira à ce cœur si loin de tout être près de toi » Donc voilà, c'était une armo comme ça, et il y avait rien, tu vois. C'est arrivé, allez, trois fois je pense, max. Deux fois avec elle, une fois avec la nouvelle Nala Hussein, où vraiment genre on rigole. Donc soit moi, c'est ça qui est sur YouTube, je crois, où il y a une version où genre je d'être prêt, là tu vois un râteau que j'ai jamais eu, tu vois, prêt, deux, et il y a que elle qui chante du coup, mais sauf qu'elle a l'armo, donc il y a pas de fondamental, donc c'est enfin bref, et une fois on n'a pas chanté du tout, tu vois, et tu sais quoi, même là, alors si Dom le directeur musical, tu vois, pour la forme, il nous convoque, tu vois. Mais il sait que, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, tu vois, t'es à 8 fois par semaine, parfois t'es fatigué, c'est comme ça. Et que justement, moins t'en fais un big deal, moins ça va se reproduire. Parce que si on attend ce moment après et qu'on a peur,
ça va réarriver, tu vois. Donc autant se dire, non, c'est pas grave, ça sera mieux demain.
Le show d'après, il est toujours un peu délicat.
Ah ouais.
Quand le lendemain, tu rejoues le show et que tu penses à cette scène-là, tu dis, qu'est-ce que je vais faire, putain. Pitié, mon Dieu, que ça retombe pas.
Après, bon, quand les gens voient. En fait, le pire, c'est quand il y a des fous rires et que les gens comprennent pas pourquoi tu rigoles. Du coup, ça va pas, tu vois, et ça casse le spectacle, ça casse l'histoire, c'est horrible. Mais quand tu réagis à quelque chose qui se passe sur scène parce qu'il y a un problème technique ou parce que machin et que tout le monde l'a vu, là d'un coup, les gens sont avec toi parce que eux-mêmes rigolent aussi, tu vois.
Mais moi, je fais de l'humour et on nous dit toujours, genre, l'éléphant dans la pièce, il faut le tout de suite, quoi. Parce que sinon, tout le monde est là en mode, on est d'accord qu'il y a un gros problème. Si personne ne le dit, enfin, en fait, faut.
Oui,
bah, en fait, il y a un problème de son, venez, on en parle, tu vois. Et en général, ça détend un peu tout le monde plutôt que de faire genre.
Les gens adorent
le
les problèmes techniques en vrai.
Oui, jusqu'à un certain point, les gens aiment bien.
Voilà. Ouais. juste avant de revenir sur le spectacle, j'avais la question qui est embêtante. On a parlé que de tubes, on a parlé que de spectacles qui marchent. Et puis parfois ça marche pas.
Je sais pas, j'ai jamais fait des spectacles qui marchent pas.
Qu'est-ce qui se passe quand par exemple Spartacus ne marche pas? Comment on vit une expérience comme ça?
Ah putain, pardon, j'ai fait une vanne
totale.
Et j'avais oublié.
C'est la dépression totale.
Excuse-moi.
Moi je sortais des 10 commandements.
Ouais.
Qui avait raisonnablement marché, on va dire.
Raisonnablement marché. Et puis à ce moment-là, on est en pleine création du spectacle de Spartacus le gladiateur, de Maxime Le Forestier et d'Elie Chouraki. Et on sent que ça va être très compliqué. Et ça a été le spectacle le plus dur que j'ai fait de ma vie.
Ouais,
parce que physiquement éprouvant. Éprouvant physiquement
et dramatique
et psychologiquement.
Ouais.
On ouvre le spectacle sur la mort d'un enfant. Ensuite, des viols dans une prison. Ouais. Ensuite, ce sont des combats de gladiateurs, des gens qu'on décapite. Enfin, c'est intense, quoi.
On l'a pas encore chroniqué ce spectacle.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est intense. On le repousse peut-être.
C'est intense, c'est très difficile. On avait carrément, tu sais, on joue au Palais des Sports.
Ouais.
Donc c'est 3500 personnes. On a eu des soirs où on jouait devant 400 personnes.
Ouf.
Voilà, et qu'on concentrait tous au milieu du carré or. Et donc on avait l'impression d'être plus nombreux sur scène que voilà. Et dans ces 400 personnes qui venaient nous voir, t'en avais qui tenaient un quart d'heure.
Ah ouais.
Parce que trop violent.
Parce que c'était c'était la violence du spectacle.
Parce qu'ils viennent en famille, avec leurs enfants, leurs machins.
Sur la promesse d'Edicom en plus.
Voilà,
tu sais, sur divertissement.
Et puis meurtre d'enfants, décapitation, viol. C'est intense.
Ouais.
Donc au bout d'un quart d'heure, les gens ont envie de vomir et sortent. Voilà. Et donc c'était ça. Donc c'était vraiment. Et moi, à ce moment-là, je suis en train de passer les auditions du Roi Soleil.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais. Donc t'avais déjà envie d'aller.
Donc déjà, c'est le nouveau spectacle de Dov Atia et d'Albert Cohen qui arrivera en 2005 au Palais des Sports. Là, je te parle de. On est en septembre 2000. Non, on est en octobre 2004. Mmh. Voilà. Et là, moi, je suis sur ce spectacle-là et on sent que ça va partir en vrille, quoi.
Ouais.
C'est vraiment compliqué, donc on a des lots et des lots d'invitations à donner tous les soirs. On pouvait facilement tous pouvoir inviter 40 personnes si on voulait tous les soirs, tu vois, chaque artiste sur scène, quoi. Donc déjà, c'est que c'est pas bon, ça sent pas bon.
Tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on sent pas toujours quand le public va exploser, va être en joie. Quand vous répétiez, vous sentiez qu'il y avait un truc.
Les répétitions étaient difficiles parce que déjà on se rendait compte que le spectacle était vraiment dur.
Mais c'est ça.
Ouais, ça allait être éprouvant physiquement et psychologiquement parce que quand tu sors d'un spectacle que tu fais qui dure 2 heures où je te dis c'est viol, décapitation, meurtre, combat de gladiateurs, sang, tu vois, tu sors pas de là, youpi, c'est cool.
Ouais.
Tu vois, il te faut un moment avant de digérer un peu le truc. Et on sentait très bien que c'était, avec le public, c'était compliqué. Les gens avaient du mal à se dire. Merde, quoi, c'est ça, c'est vraiment super violent. Et puis, moi, à ce moment-là, je passe les auditions de l'Élysée et tout le monde me dit, tu vas droit dans le mur, c'est mort. Les comédies musicales en France, dans ce genre-là, comme ça, spectacle au Palais des Sports, c'est fini. Regarde, là, l'exemple de Spartacus, c'est foutu, c'est dead.
Oui, parce que juste avant, il y avait eu Cindy qui s'était...
Oui, il y avait eu ça aussi, c'est vrai. Voilà.
Ouais, pareil.
Et donc, moi, bizarrement, je me dis, on me propose enfin un premier rôle dans ma vie, c'est le Roi Soleil, moi, je vais y croire. Et à ce moment-là, on est en train de jouer au Palais des Sports, le show de Spartacus. Et nous, de l'autre côté, avec le Roi Soleil, on commence à sortir le premier single qui est Être à la hauteur. Et Être à la hauteur cartonne.
Qui cartonne tout de suite, ouais.
Alors que les singles qui étaient sortis juste avant de Gladiator ne marchaient pas du tout.
Ils n'étaient pas à la hauteur, du coup.
Et donc, on se retrouve à... Ouais. On se retrouve carrément à faire l'Astarac, le machin, notre première télé Astarac, à chanter Être à la hauteur avec Grégory Lemarchal. Enfin, bref. on sent qu'il se passe un truc, quoi. Ouais. Et d'un coup, je le vois en arrivant au Palais des Sports tous les soirs quand je joue le show de gladiateur, où tout le monde me regarde en me disant mec, en fait, t'as raison, en fait. Il a peut-être se passé un truc de fou avec ce qui vous arrive là, dans un an, dans cette salle-là, au Palais des Sports, avec le Roi Soleil. Et moi, j'étais là, je croisais les doigts, évidemment. Je me disais, bah, je sais pas, on verra ce qui se passe. Et puis l'album du Roi Soleil sort, c'est un carton. Et on est en train de finir de jouer Gladiateur au Palais des Sports. On est le 31 décembre 2004. Et là, c'est la réunion d'avant au spectacle. Bon, les gars, merci, c'était cool, machin. Donc, le spectacle se termine aujourd'hui. On doit partir en tournée au mois de février. On vous annonce qu'en fait, c'est le 31 décembre 2004, là. C'est notre dernière ce soir. On jouera plus jamais le spectacle.
Ah, vous l'avez su le soir?
On l'a su le soir même, juste avant le show.
Ah ouais.
En lui disant, la tournée qui devait partir après derrière, annulée. Donc, tu vois, voilà, quand tu sens, on sentait qu'il se passait un truc. Mais là, ça a été un peu violent, quoi, quand c'est arrivé. Et puis c'est un investissement de plein de personnes, que ça soit la production, les artistes, les tout, quoi, tu vois. Et puis c'était triste.
C'était et comment triste, on joue à un spectacle qu'on va jouer pour la dernière fois, mais alors que c'était pas censé être la dernière fois?
Bah, tu chiales entre les chansons quand t'es sur scène et que ça, et que bah, toute la violence qu'il y a sur scène, les viols et les meurtres et machin, bah tu chiales pour de vrai, en fait. Donc tu vois, tu...
Vous étiez, il y avait pas du tout une part de vous qui était un peu rassurée quelque part?
Non, par contre, quand tu signes sur un spectacle et que qu'on te dit tu vas jouer au Palais des Sports jusqu'au 31 décembre et qu'après en mois de février tu pars en tournée jusqu'au mois de juin dans tous les zéniths de France, tu vois, tu espères que ça se passe, quoi, parce que c'est notre job aussi, on a envie d'y aller, quoi. Et puis t'apprends le soir de la dernière, du 31 décembre, que l'année va commencer très mal, tu vois. Ton 1er janvier 2025, il va être moyennement cool, quoi. Donc tu te dis,
toi, t'avais déjà le Roi Soleil derrière, quoi, au moins. Mais c'est vrai que.
Moi, j'étais dans un truc où, pour l'instant, la promesse, elle était folle. On sentait qu'il y avait un vrai engouement, qu'il allait se passer quelque chose. Mais on n'imaginait pas tout ça. Moi, j'étais loin d'imaginer tout ça. Après, les succès te forment, mais c'est aussi beaucoup les échecs qui te forment, peut-être plus encore.
Et puis même, c'est intéressant ce que tu dis, c'est aussi de voir comment, dès la construction du spectacle, vous sentiez qu'il y avait un truc qui allait... Il y avait un truc qui était problématique quand même dans le montage.
Après, ça dépend, tu vois, parce que c'est vrai que même quand tu fais des trucs vraiment très stylés, il y a un moment donné, et c'est ça qui fait peur en fait en tant qu'artiste, et c'est là où, quand justement on trouve notre public, c'est pour ça qu'on est en joie. C'est pas que parce que ça marche, c'est parce que vraiment il y a une phase en répétition quand tu fais une création où tu perds pied et où tu sais plus si vraiment ce que tu fais c'est bien ou pas. Tu es dérouté, même quand tu fais un truc vraiment bien, tu vois. Il y a vraiment un moment où tu es en mode waouh. Et moi, souvent à ce moment-là, je fais venir des gens. Ma meilleure pote, tu vois, que je l'ai eu la cache au Palais des Sports comme ça, genre meuf, on joue dans 15 jours, faut que tu viennes, rassure-moi, parce que je sais plus, en fait, tu vois. Donc c'est toujours un peu bizarre, mais comme tu dis, je pense que c'est aussi le fait d'être il y a trop de gens qui sont concernés, trop de les techniciens, vous imaginez qu'ils ont pas du tout c'est pas du tout la même réalité, tu vois. Donc,
eux on leur annonce que le truc s'arrête, c'est terrible, quoi.
Et ça, en tant qu'artiste, tu sais que t'es un peu capitaine du navire, et quand ton navire il va pas à destination,
les gens nous voient, nous, notre visage, quoi. Ils voient pas les visages techniciens.
C'est tout le monde derrière.
Tu dis que t'as une responsabilité, tu dis ça veut dire que j'ai merdé quelque part, quoi.
Ouais.
Fort, pour qu'on puisse carrément ça soit annulé, quoi.
Mais merci d'avoir partagé cette petite partie.
Oui, voilà.
Et je note, alors, parce que j'ai découvert ça, que tu es donc la seule personne à avoir doublé deux Po-Wo.
Exactement.
Puisque Ahmed Mouissi dans les 10 commandements, et Alain Chenevière dans Spartacus.
Et que j'ai remplacé le jour même.
Ah, au pied levé comme ça.
En fait, on m'appelle le matin en me disant Merwan, on a un truc à te dire. Juste, on veut juste te prévenir à l'avance. Si tu dis non à la question qu'on va te poser, on est obligé d'annuler le spectacle de ce soir et les prochains spectacles. Voilà, c'était juste ça, on voulait juste te dire ça. Maintenant, on va te poser la question. Déjà, ça fait normal. C'est quoi l'idée? Alors, Alain Chenevière est malade. Il est cloué au lit. Voilà, il a un problème de santé. Je rentre pas plus dans le détail. Et c'est mort. Il va pas pouvoir jouer au moins pendant toute une semaine. Sauf que déjà, on était déjà dans le dur avec les spectateurs qui n'est pas. Et ils me disent, voilà, si tu nous dis non, en fait, on est obligé d'annuler les 2-3 spectacles qui arrivent, quoi. Je dis, ok, c'est quoi le truc? On a besoin que tu remplaces Alain Chenevière ce soir, demain et après-demain.
Mais vous avez pas du tout la même voix. Enfin, c'est une voix très grave.
Je dis, mais c'est-à-dire, comment? Moi, je passe à doublure, Alain Schoenberg.
C'est ce que j'allais dire, il n'avait pas de doublure.
Il n'avait pas de doublure, en fait. Il pensait qu'il y avait quelqu'un, un mec qui s'appelait Marco Beacco, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été, à un moment donné, répétiteur sur la Starac. Okay. Un grand monsieur chauve avec des petites lunettes comme ça qui les faisait répéter.
Ah, oui, oui,
tout à fait. Qui était toujours looké avec des looks assez dingos. Voilà, malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Et en fait, c'était notre répétiteur. Et il était censé devenir sa doublure, mais c'est pas arrivé en fait. Et donc Alain Schoenberg tombe malade et on me demande de le faire. Sauf que moi, je ne connais pas son rôle. Je l'ai vu, je le vois tous les soirs jouer son rôle. Mais je suis concentré sur autre chose, moi. Oui. Et puis mon job, c'était de doubler Christophe Héro. Voilà, dans un des rôles. Dans le rôle de David. Je dis, mais moi je connais pas ce rôle-là. Il me dit, ouais, mais on a personne. Et si tu me dis non, c'est foutu quoi. Donc j'arrive au Palais des Sports à 10h du mat. Et je répète toute la journée pour jouer le rôle de Crassus, en fait, voilà, l'empereur romain. C'était infernal. J'ai fait ça pendant 3 jours, ça a été infernal. Et j'étais psychologiquement ultra, ultra, ultra down.
Ouais.
On
ouais.
va dire, voilà. Avec en plus tout ce qui se passait dans le public et la pression qu'on nous mettait tous en me disant, voilà.
Pour ça qu'un an plus tard, les cuissards,
il faut que tu joues parce que
ça allait, quoi.
Donc c'était un petit peu dur, quoi. C'était un petit peu difficile.
Ouais, voilà. Ouais, puis c'est dur d'aller au charbon quand on sait que la ouais. salle est pas pleine ouais. et tout ça, j'imagine. Ouais.
C'était difficile, c'était vraiment ouais. difficile. Mais ça a été formateur, franchement. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses.
On revient au tube.
On revient au tube.
Les comédies musicales, ah ouais. la tournée. On en a parlé au tout début. Il y a une date spéciale, date anniversaire.
Ouais.
C'est le 15 mars prochain au Dôme de Paris, au Palais des Sports. Ça se remplit déjà bien. Donc prenez vos ouais, places.
C'est ouais. quasiment plein, hein, quasiment complet, je crois.
Donc ouais. si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Et puis bah, c'est une date spéciale parce qu'il y a du monde en plus.
Ah ouais, là il y a.
Qu'est-ce qui va se
monde.
Passer sur
bah,
scène?
Écoute, on a appelé des gens qu'on admire, des gens qui sont nos potes aussi. Donc on a quand même bon Hélène Segarra qui donc continue d'être de, façon, ouais. de faire partie de l'équipe et continue de nous faire l'amitié d'être là. Julie Zinati qui rejoint du coup sa grande sœur on va dire et Fabienne Thibault, Victoria Sio du Roi Soleil, Anaïs Delva,
David
Mott, David Ban, Jonathan Serrada.
C'est vraiment un All Star Game.
Un All Star Game. Plus évidemment les gens qui font partie que vous connaissez de la tournée qu'on fait partout.
Ouais.
Donc Priscilla, Alexis, Jenny, Cécilia, Damien, Merwan et moi, Michele. Donc non, c'est une date très spéciale parce qu'il n'y en aura pas deux comme ça, clairement. Ouais.
Donc des ouais. nouvelles chansons, du coup.
Des nouvelles chansons, évidemment.
Donc, 3h50 de show, quoi.
Donc, bah, une grande soirée. Ouais. Une très grande soirée, on est en train de la timer. Voilà. Là, on vient à peine de s'y mettre. Mais,
un opéra en 4 actes.
Ouais. Bon, ça va être super. Des musiciens, des danseurs, cette fois.
C'est le moment
et Merwan qui va danser,
voilà,
donc,
de la chorégraphie.
Ça avec le rôle de Spartacus, c'est vraiment c'est tout en même temps.
C'est
le rôle de Crassus.
La deuxième tournée que vous commencez, donc là effectivement vous terminez la première tournée, je donnerai les dates tout à l'heure. La deuxième, il va y avoir des évolutions, une nouvelle setlist, des choses qui vont un peu bouger. Vous avez commencé à travailler dessus?
Non, on n'a pas commencé à travailler encore, puisqu'on a quand même quelques mois entre les deux pour le faire. Mais forcément que ça va être nouveau. Puis comme c'est une tournée qui arrive en fait avant une tournée de Zénith qu'on devrait faire à l'automne prochain, on a envie que ce soit un entre-deux. Donc, c'est-à-dire que bien sûr qu'il va y avoir c'est une nouvelle setlist avec, sans perdre de vue évidemment que les gens vont continuer de chanter, les artistes vont continuer de chanter les titres qui nous ont fait connaître, tu vois, mais on va se permettre d'autres kiffs, d'autres formations. Peut-être d'autres artistes vont nous rejoindre, je ne sais pas, tu vois, d'autres guests à l'occasion. Et puis, mais surtout, genre. Dans la scène, on va faire évoluer puisque ce sera des plus grands théâtres en fait. Donc, ouais. C'est pas des zéniths, mais ce sera des plus grands théâtres.
Vous avez envie de le faire grandir ce spectacle parce que moi ça me fait penser à Star 80 qui a commencé dans des petites salles sur bande son avec pas beaucoup de monde et puis au fur et à mesure que ça marchait, il y avait du monde qui arrivait et puis ils ont fait le Stade de France, un deuxième. C'est pour ça
qu'on en prend soin.
Ouais, c'est un spectacle qu'on adore jouer. Donc, ouais. Clairement, s'il peut aller le plus loin possible, on sera ravis.
Puis c'est pour ça qu'on en prend soin, du coup, vraiment, dès qu'on peut, on rajoute en qualité et on essaie de faire. Voilà, c'est une économie aussi, on fait ce qui est faisable. Hein, là, on fait quand même des théâtres qui sont pas dégueux, hein, le Trianon et tout. C'est des théâtres, à peu près, on est dans des salles entre 600-700 places et 1500 places.
Ouais, c'est
tu
step
vois.
By step, on monte progressivement.
Mais quand même, 9, plus
des
sports,
des zéniths qui arrivent aussi. Non, on est heureux
Là, on est 20. Parce que c'est en train de tourner là. Dans le tourbus, voilà. On est 20. D'accord. Il faut savoir que ça représente 20 personnes, ce qu'on est en train de voir sur scène, dans des salles justement qui sont pas des paliers d'espoir. Donc ouais, on évolue.
Chanteurs, musiciens et techniciens, on part. On est 20.
Et un côté grande famille. Donc,
C'est une très très grande famille. Mais voilà, en gros, dès qu'on a un peu dosé, en plus, on le réinjecte dans de l'artistique, évidemment, on le met pas dans nos poches.
Mais c'est une vraie récompense.
Business Angel qui nous écoute.
C'est une vraie récompense quand on voit comment les gens sont touchés par le spectacle. C'est tellement gratifiant et tellement bon, en fait.
Ouais.
On est tellement content de voir que ça touche le cœur des gens.
Amélie, Virginie, une dernière question. Je donne je conclue avec la liste des dates.
Moi, j'ai une question un peu bête. Vas-y, pour Merwan.
Ça n'existe
pas. Par rapport à Instagram.
Quoi?
Comment va Sid?
Ah ouais, non mais on a perdu.
Il va bien.
La cuteness, mais c'est.
Il va bien. Ah ouais, c'est bon. C'est
le petit chien.
C'est un petit chien.
C'est,
voilà.
C'est ceux qui nous écoutent, oui. Et qui peut-être n'ont pas la ref.
C'est mon troisième fils, en fait. Voilà. Carrément, quoi. Vraiment.
Enfin, ouais.
C'est mon troisième fils.
C'est le premier.
Pour moi, c'est l'enfant roi. C'est mon troisième fils, c'est l'enfant roi.
C'est mon troisième fils, quoi.
Après,
voilà.
Le roi soleil, le roi lion, l'enfant roi. Voilà.
Voilà. Exactement. Mais c'est voilà. C'est un amour. Il va bien. Merci.
Et bien
merci
sûr.
Beaucoup.
C'était bien merci. De finir là-dessus.
Merci à tous les deux. Je redonne la guest list de cette tournée. Ouais. Cécilia Cara, Damien Sack, Priscilla Betty, Alexis Loison, Ginny Lynn, Michelangelo Loconte, Hélène Segara et donc vous, Wendell Marimoutou, Juan Rim, sur des dates qui sont les suivantes. Alors je vais en donner quelques-unes. J'espère que je ne me trompe pas. Le 8 octobre à Lausanne, le 14 à Ajaccio, le 19 à Bressuire, le 21 octobre à Lorient, le 22 à Nantes, vous êtes presque tous les soirs sur scène, le 27 à Marseille, 28 à Toulouse, 17 novembre Le Havre, 18 novembre Amiens, 19 novembre Forges-les-Eaux, puis une pause et puis une deuxième tournée, et donc cette date, le 15 mars au Palais des Sports.
Yes.
Exactement.
Eh bien, merci encore.
Merci pour l'accueil, c'était un plaisir.
Et puis, merci à vous, Amélie et Virginie.
Merci, Julien, d'avoir drivé tout ça.
Bah oui, complètement.
Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode des Rois du Monde et Stone, etc., etc., pour parler d'autres spectacles ou pour discuter avec des gens du monde de la comédie musicale.
Exactement.
Salut à tous.
Salut, à bientôt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.